Vous êtes sur RTL.
Maintenant, place à Yves Calvi. Bonjour Yves.
Merci Julien, bonne journée à vous et à toute l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous. Les invités d'RTL, ce matin, à 8h15, nous recevrons le chef du parquet national financier, Jean-François Bonner. Il réagira pour la première fois sur l'antenne d'RTL après la condamnation hier à 3 ans de prison, dont un ferme du président Sarkozy pour corruption. À 7h40, c'est le député et premier questeur de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier, qui réagira lui à cette bombe judiciaire. Alba Ventura interrogera aussi le député La République en marche sur le front républicain qui se fissure face à l'éventuelle présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2022. Enfin, au chapitre économique, notre rendez-vous de 7h38 avec François Langlais qui analyse et constate ce matin le boom des ventes de voitures électriques. La crise a visiblement accéléré la mutation. Nous sommes le mardi 2 mars 2021. À tout de suite. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, un jugement inédit et le début d'un long marathon judiciaire.
3 ans de prison, dont un enferme du jamais vu pour un ancien président. Nicolas Sarkozy fait appel et prépare déjà le procès Big Malion. Tenir 4 à 6 semaines encore et croiser les doigts, le message d'Olivier Véran hier soir, alors que le rythme des vaccinations va de nouveau s'accélérer. Des taux historiquement bas, des prix qui bondissent et des transactions records. Année faste pour l'immobilier malgré la pandémie. Nous ferons le bilan. Et puis le musée Gainsbourg, chez lui, rue de Verneuil à Paris, devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Un vieux projet de sa fille Charlotte. L'artiste nous quittait il y a 30 ans déjà, le 2 mars 91.
La politique, Olivier Bost.
Pour parler d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, l'épidémie et la présidentielle, pour ce qui ressemble fort à un crash avant même le décollage.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Il y aura donc un autre procès. Nicolas Sarkozy sera rejugé dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien chef de l'État a fait appel hier de sa condamnation à 3 ans de prison, dont un an ferme pour corruption, une peine inédite pour un président sous la 5e République. Colère et sidération à droite, où l'on dénonce, l'expression n'est pas nouvelle, un acharnement judiciaire. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Ce n'est pourtant que le début, la première étape d'un agenda judiciaire chargé en ce mois de mars. Les affaires se suivent et les audiences s'enchaînent pour l'ancien chef de l'État.
Absolument, le bal judiciaire ne fait que commencer puisque Nicolas Sarkozy a de nouveau rendez-vous au tribunal dans 15 jours. Alors certes, il est libre en faisant appel, il échappe au bracelet électronique, mais il aurait sans doute préféré s'engager dans ce nouveau match avec une relaxe à son compteur. Et car c'est bien un marathon qui attend l'ancien président. Le procès Big Malion, Nicolas Sarkozy va devoir s'expliquer sur la débauche de moyens engagés lors de sa campagne présidentielle en 2012. Plus de 20 millions d'euros au-delà du seuil autorisé, masqués selon l'accusation par de fausses factures et une double comptabilité. Un mois d'audience et une nouvelle année de prison qui plane sur sa tête pour financement illégal de campagne électorale.
Cindy Hubert, je le disais, les réactions à droite sont très virulentes. Le soutien à Nicolas Sarkozy unanime. Le patron des Républicains, Christian Jacob, évoque un jugement, je cite, d'une sévérité absolument disproportionnée et demande que la lumière soit faite sur l'indépendance et sur les méthodes du parquet national financier.
Et je vous rappelle que le patron du parquet national financier est notre invité à 8h20. Il aura évidemment l'occasion de répondre à toutes ces critiques.
Une réaction plus étonnante, car elle émane d'un ministre. Or, le gouvernement met un point d'honneur à ne pas commenter les décisions de justice. Gérald Darmanin, on le sait, très proche de Nicolas Sarkozy, a tenu publiquement à lui adresser un message.
Chacun sait l'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien amical. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays.
Le ministre de l'Intérieur qui réagissait hier donc à cette condamnation, 3 ans de prison dont un enferme contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes.
RTL 7h03, Emmanuel Macron réunira d'ici jeudi à l'Élysée Jean Castex et les ministres concernés afin d'étudier les différents scénarios de réouverture de lieux publics.
Ouais, parmi eux, le fameux pass sanitaire qui pourrait permettre, sous condition, d'accéder à des événements culturels ou sportifs ou encore d'aller au restaurant. Le chef de l'État qui demande aux Français de tenir encore 4 à 6 semaines, il répondait hier à une question concernant le couvre-feu. Message répété hier soir par Olivier Véran avec prudence.
Hélas, sur les 4 à 6 prochaines semaines, il ne faut pas compter qu'on réduise la voilure des mesures. Il faudra le couvre-feu sur les 4 à 6 prochaines semaines et nous espérons évidemment ne pas aller au-delà à l'échelle du pays. Et puis nous espérons évidemment que d'ici 4 à 6 semaines, on puisse retrouver davantage de liberté. Nous l'avons fait l'année dernière. Le printemps est moins propice à la circulation du virus. On vaccine, on protège les plus fragiles, on croise les doigts.
On croise les doigts, dit le ministre de la Santé, invité du 20h de France 2 hier, qui s'apprête à accélérer la vaccination. Le gouvernement l'espère, le rythme va s'accélérer. La stratégie en tout cas évolue. Les plus de 65 ans vont désormais pouvoir bénéficier de l'AstraZeneca, le vaccin britannique, longtemps décrié, mais bien plus efficace que prévu selon des études récentes. Les frontaliers qui se rendent en Allemagne aujourd'hui depuis la Moselle doivent, dès ce matin, se munir d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Le département, vous le savez, étant considéré comme une zone à très forte circulation de variants par les autorités allemandes. Dans l'actualité également, c'est deux mises en examen, deux frères de 17 et 27 ans, placés en détention provisoire après la mort d'un adolescent de 15 ans. C'était vendredi dernier à Bondy en Seine-Saint-Denis. Les deux suspects se sont présentés eux-mêmes à la police le lendemain du meurtre.
La crise sanitaire a-t-elle bouleversé l'univers de l'immobilier ? Elle a en tout cas boosté les ventes. Année 2020, record pour la pierre. Et on en parle dans un petit instant sur RTL. Restez avec nous. Bonne journée à tous. Il est 7h05.
RTL Matin.
7h06, la suite du journal de Dominique Tenza. Alors qui l'eût cru, l'immobilier a fait mieux que résister à la crise. Il semble en fait qu'il en ait même profité.
Et d'après le baromètre mensuel Meilleurs Agents, malgré le contexte sanitaire, 2020 est une année exceptionnelle pour le marché de la pierre. Plus d'un million de ventes réalisées en France. Deuxième meilleure année juste après 2019. Des prix qui continuent d'augmenter. Rien ne semble pouvoir ébranler le marché. Vous l'avez constaté, Armelle Lévy à Besançon.
Dans son office notarial, Maître Marie-Astrid Ferrand enchaîne les rendez-vous pour des projets immobiliers.
Installez-vous, on va faire la lecture de l'acte. Depuis la reprise en mai 2020, il y a énormément de transactions immobilières.
Maître Ferrand voit surtout arriver des clients qui cherchent à se mettre au vert.
On se rend compte qu'on a des personnes qui travaillent dans des grandes villes comme Paris, avec le télétravail, qui peuvent venir en province, et notamment dans une ville comme chez nous, sur Besançon, et qui vont acheter une maison, et puis qui vont télétravailler, et puis aller une fois par semaine sur Paris. On a également beaucoup de clients qui ont mal vécu le premier confinement et qui cherchent maintenant une maison ou du moins un appartement avec une terrasse, un petit extérieur.
Et il y a aussi une autre explication de l'engouement des Français pour la pierre.
Une peur des gens de laisser leurs fonds en banque. Donc ils préfèrent investir dans la pierre.
Le marché immobilier résiste grâce à l'épargne des Français, donc à l'apport des investisseurs et à des taux qui restent exceptionnellement bas, moins d'1% pour des crédits sur 20 ans.
Un reportage signé Armelle Lévy. Emmanuel Faber n'aura plus les pleins pouvoirs chez Danone, mis sous pression par les actionnaires du groupe. Il reste président, mais se voit contraint de quitter la direction générale de ce fleuron français de l'agroalimentaire. Son successeur n'a pas encore été recruté.
Il est 7h08.
Le Salon de l'agriculture est sur RTL.
Annulé cette année pour des raisons sanitaires, le Salon de l'agriculture, c'est toute la semaine sur RTL, votre radio qui a décidé d'apporter son soutien à nos agriculteurs qui, eux aussi, traversent une période compliquée. Au contexte sanitaire vient s'ajouter la précarité souvent inhérente à leur métier. Illustration ce matin dans la Marne avec l'histoire de David. Il y a encore 2 mois, il tenait une exploitation à Faux-Vésigneul, mais le poids des charges était trop fort. Samuel Goldschmidt l'a rencontré pour RTL.
La ferme, c'est pourtant toute sa vie, agriculteur de deuxième génération. C'est comme ça que se présente David Chaubriat.
Ouais, père en fils, ouais. 27 ans, je suis agriculteur. Enfin, que j'étais agriculteur.
Il était, car il a arrêté. Cela fait moins de 2 mois. Il ne gagnait plus sa vie avec son travail.
Très gros problème de trésorerie. Il arrive un moment où il faut dire stop, quoi.
Dans ce milieu, l'équilibre d'une exploitation peut basculer d'une année sur l'autre.
Des colzas qui se vendaient 330 € l'année dernière, la tonne. Là, ils ont été vendus cette année à 450 €. Vous avez 140 € d'écart. C'est énorme. Vous avez 10 hectares de colza, ça fait 6 000 €. Il y a un moment, si vous avez 30 000 € de revenus et puis que vous avez 40 000 € de charges à payer, ben, les banques, ça va un moment, mais à un moment, ils ne vous suivent plus. Hein. Puis on peut pas vivre avec des ouvertures de crédit tout le temps.
David Chaubriat a eu la lucidité d'appeler à l'aide l'association Réagir, qui conseille et aide ses confrères en péril. Et il y a du travail, explique son président Constant Floquet, lui-même agriculteur.
Il y a 10 ans, on accompagnait une 20aine d'agriculteurs. Et aujourd'hui, l'année dernière, en 2020, 140 agriculteurs accompagnés. On accompagne des exploitants qui vont de 60 hectares jusque la plus grosse exploitation qu'on avait, c'était 600 hectares. Donc il n'y a aucune règle. C'est pas parce qu'on a des tracteurs qui brillent dans la cour que tout va bien, au contraire.
Si David Chaubriat témoigne, c'est pour encourager ses collègues en détresse à ne pas attendre qu'il soit trop tard.
Quand on n'a pas des gens à qui parler, parce que les agris, c'est ça, hein. Les agris disent rien. Ils disent rien, ils se renferment sur eux-mêmes, ils disent rien. C'est pour ça qu'on retrouve des agris malheureusement accrochés au bout d'une corde ou quoi, parce que le mec, eh ben, il a voulu pousser, aller à bout, et puis ben, il arrive un moment, ça casse, quoi.
Lui, il veut tourner la page, il est maintenant intérimaire dans les travaux publics, toujours au volant d'un tracteur.
Reportage signé Samuel Goldschmidt.
C'était le 2 mars 1991, il y a 30 ans, disparaissait Serge Gainsbourg.
Le corps de l'artiste était retrouvé chez lui au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, un lieu devenu mythique depuis, qui en 30 ans est resté
intact et que le grand public va pouvoir enfin découvrir. Un musée Gainsbourg, vieux projet, devrait ouvrir d'ici la fin de l'année. Vous en savez un peu plus, Stephen Bellery.
Rien n'a bougé, les mégots dans le cendrier, les bouteilles de rouge entamées, la banquette vénitienne près de l'entrée, les photos de Bardot, Berkin, Bambou sont toujours accrochées. Le lieu devrait, selon nos informations, s'appeler la Maison Gainsbourg. Inauguration prévue à l'automne. Une pièce d'exposition temporaire sera créée. Charlotte Gainsbourg, propriétaire des lieux, a acheté un local en face du mur couvert de graffitis pour y installer la billetterie. Très exigu, l'endroit ne pourra accueillir que peu de monde. Les visites se feront en petit comité. C'est pourquoi le prix d'entrée sera très élevé, autour de 40 euros avec l'accès à l'expo. L'étage avec la chambre du chanteur sera toutefois interdit aux visiteurs. D'ici là, le mythe Gainsbourg se poursuivra au rayon disque. André Manoukian publiera un album hommage le 23 avril, nom provisoire Les Pianos de Gainsbourg, des instrumentaux et les voix d'Élodie Frégé, Camélia Jordana, Mélodie Gardot sur la javanaise et Isabelle Adjani sous le soleil exactement. C'est en 2023 enfin qu'on pourra prendre le métro, station Serge Gainsbourg, au Lilas.
Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest.
Et on retrouvera à 9h30 Bellery pour évoquer la mémoire et le talent de Serge Gainsbourg dans Laissez-vous tenter.
Une retraite à présent, précoce, 36 ans. Joakim Noah quitte les parquets de la NBA après 13 saisons dans la célèbre ligue de basket nord-américaine. Il était devenu en 2014 le deuxième français à participer au All-Star Game après Tony Parker.
On termine avec les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Chantilly, Dominique.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 13, le 8, le 3, le 12, le 5 et le 7, la dernière minute, le 5, Bellays Blues.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h12, la politique avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Décidément qu'il est dur d'être dans l'opposition au gouvernement en pleine crise sanitaire. Et ce matin, Olivier, vous décortiquez pour nous le cas Anne Hidalgo.
Oui, jeudi dernier, par la voix de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, elle demandait un confinement total pour Paris et seulement Paris pendant 3 semaines. Avant de rouvrir les restaurants, les bars et de faire la fête. Des fadaises avaient tranché sévèrement dès le lendemain le Premier ministre Jean Castex. Alors hier, après une réunion avec l'Agence régionale de santé et le préfet de la région Île-de-France, eh bien Anne Hidalgo a refusé un confinement le week-end. Ah. Une proposition dure, voire inhumaine, a-t-elle dénoncé. Et pour éviter ça, elle propose d'ouvrir les fenêtres des écoles et de faire cours dehors dans les parcs. Il fallait donc tout fermer et maintenant il faut tout ouvrir.
Bon, c'est une erreur politique.
Anne Hidalgo veut se faire le relais d'une exaspération, d'une usure ressentie par beaucoup de monde. D'ailleurs, Matignon a précisé hier soir que le confinement le week-end faisait partie des possibilités, mais ce n'est pas le scénario nécessairement privilégié. Ça fait 120 jours que nous sommes sous confinement puis couvre-feu. Chaque semaine, le gouvernement ou le président renvoie aux semaines suivantes. Un ministre d'ailleurs ne le nie pas. Il y a de la lassitude, le moral des Français n'est pas bon. Et il résume, on essaye de tenir avec le moins de restrictions possible.
Alors du coup, elle a raison ?
Non, parce que c'est avant tout du calcul politique. Et ça se voit beaucoup. Anne Hidalgo se retrouve à faire dans du parisiano-parisien au moment où elle veut se présidentialiser, parler aux Français. Au moment où elle entame des visites aux quatre coins de la France pour montrer sa nouvelle ambition présidentielle, poussée par des socialistes en mal de candidats, eh bien, elle s'enferme à l'intérieur du périph, confinée puis pas confinée, comme sur une île, Paris et le reste du monde. Et elle le fait sans en parler à personne, sans consulter, ce qui renvoie à une critique qui lui est souvent adressée, son sectarisme. En un week-end à peine, Anne Hidalgo s'est crachée avant le décollage, ce qui, soi-disant en passant, amuse beaucoup dans le gouvernement. Dans ses critiques, Anne Hidalgo donne plus le sentiment de surfer sur le ras-le-bol, l'amorosité, que d'alerter vraiment le gouvernement. Elle devrait se méfier.
Ah bon, se méfier de quoi ?
Eh bien de cette malédiction qui touche toutes celles et tous ceux qui ont attaqué le gouvernement frontalement depuis le début de cette crise. Les présidents de région, par exemple, pour certains d'ailleurs avec la présidentielle en tête, là aussi, oui, ont critiqué le début très mou de la campagne de vaccination. Rétrospectivement, ils n'avaient pas tort et les choses se sont accélérées après leur coup de gueule. Mais politiquement, ils n'y ont absolument rien gagné. Au contraire, tous ceux qui ont protesté à un moment ou à un autre contre la politique sanitaire et de manière virulente y ont laissé des plumes, ou plutôt des points, moins 3, moins 4, moins 5 points dans les sondages de popularité. D'ailleurs, depuis, vous les entendez tous beaucoup moins, sauf Anne Hidalgo.
Merci beaucoup Olivier Bost. L'actualité politique est aussi sur le site RTL.fr et à 7h40, je vous le rappelle, Alban Ventura reçoit aujourd'hui le député d'Ille-et-Vilaine, premier questeur de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier. Dans un instant, notre semaine de l'agriculture se poursuit sur l'antenne d'RTL. Nous allons retrouver notre brigade de l'actualité, faire un point sur le revenu, les conditions de travail dans les exploitations. Puis nous serons avec le président des jeunes agriculteurs.
RTL Matin, Yves Calvi.
RTL continue de parler d'agriculture cette semaine et de donner la parole à nos agriculteurs. Mais est-ce encore un métier d'avenir? On a entendu dans notre journal de 7h ce reportage d'un agriculteur qui a décidé de laisser tomber. Quels sont les revenus de nos agriculteurs? Est-ce un métier aussi difficile qu'on le dit? Anaïs Bouissou de notre brigade RTL est avec nous. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
D'abord, combien gagne un agriculteur, Anaïs? Est-ce qu'on le sait?
Justement, les agriculteurs sont l'une des professions où les revenus sont les plus disparates. Vous avez de tout. Des grands propriétaires terriens à plusieurs milliers d'euros par mois. Et puis tous ceux qui élèvent des moutons, des vaches, des éleveurs dont près de 30% ne se dégagent même pas un revenu. Ils ont un solde négatif à la fin du mois. Résultat, quand on fait la moyenne de toutes ces situations, au dernier comptage, l'INSEE mesure un revenu moyen à près de 1800 euros par mois, avec donc des écarts considérables.
Mais est-ce que c'est quand même un revenu qui augmente ?
Alors ces dernières années, oui, en moyenne, en 2018, les revenus ont augmenté. Et ça fait suite à une année 2017 qui était déjà en hausse. C'est dû à une forte consommation de céréales, à une hausse des prix dans le secteur de la pomme de terre notamment, et aussi à une augmentation de l'élevage d'animaux. Mais ça ne veut pas dire que le niveau de vie des agriculteurs est nécessairement en progression sur du long terme. C'est juste que leurs revenus varient énormément d'une année sur l'autre. À 10 ans, par exemple, c'est très difficile de faire des prévisions. Votre pain quotidien dépend de mille et un facteurs, les prix qui fluctuent, le marché des matières premières, les aléas climatiques, les maladies qui se propagent, le montant des aides européennes, etc. Tout un tas de facteurs indépendants de la bonne volonté et de la bonne gestion des agriculteurs.
Avec d'énormes horaires de travail, en plus évidemment.
Ah oui, ça vous imaginez bien que les 35 heures, on n'y est pas. En moyenne, un agriculteur travaille 55 heures par semaine avec des horaires décalés, matin, nuit, week-end, peu de vacances, des activités physiques et un taux d'accident du travail important. Et ces accidents surviennent principalement en présence d'animaux vivants, un coup de corne d'un bovin par exemple, ou avec le matériel agricole. Tous les ans, il y a des décès de 2016 à 2018, 247 décès de chefs d'exploitation à la suite d'un accident du travail ou d'un trajet mortel.
Bref, ils sont incroyablement courageux. Merci beaucoup Anaïs Bouissou.
Yves Calvi sur RTL.
Il est 7h20. Bonjour Samuel Vandal.
Bonjour.
Vous êtes président des jeunes agriculteurs, producteurs céréaliers dans le département de la Seine-et-Marne. Samuel Vandal, vous venez d'entendre notre brigade de l'actualité. Et pardon d'être aussi direct, mais vous qui représentez les jeunes agriculteurs qui s'engagent dans ce métier, ne pensez-vous pas que c'est un métier dans lequel on peut aujourd'hui difficilement se projeter ?
Eh ben non, justement, et encore plus après le Covid, je pense qu'on peut largement se projeter. On a beaucoup parlé pendant cette pandémie de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire, et justement, moi je pense au contraire que c'est un vrai métier d'avenir sur lequel un certain nombre de gens ont envie de se lancer dans l'aventure. D'ailleurs, on le voit, nos écoles agricoles ont jamais été aussi pleines depuis les deux dernières années.
Et en même temps, découragement, isolement, précarité, faut vraiment en vouloir pour démarrer cette carrière agricole en 2021.
Et oui, le métier d'agriculteur, c'est avant tout une passion, une très grande passion qui souvent naît très petit. Et donc, c'est important de pouvoir faire ses rêves. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est important, et comme ça a été dit dans votre rubrique juste avant, c'est aussi important de gagner sa vie.
Les exigences environnementales, l'interdiction des pesticides, les aléas du climat qui semblent de plus en plus fréquents, ça vous motive, vous ?
Mais écoutez, en tout cas, le changement et l'adaptation motivent, parce que ça, c'est ce qui fait aussi que sur notre exploitation, on est toujours en mode projet. Aujourd'hui, oui. La vraie contrainte des agriculteurs, c'est surtout le prix, parce que pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir changer nos techniques, pour pouvoir améliorer notre résilience sur notre exploitation, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on puisse gagner dignement notre vie, et donc ça doit se transformer par du prix.
Alors vous l'avez évoqué il y a un instant, il n'y a jamais eu autant de jeunes dans les écoles d'agriculteurs. Qu'est-ce qui les motive et que sait-on du profil de ces jeunes gens qui s'engagent dans la voie agricole ?
Alors le profil des jeunes, il est très divers. On voit qu'aujourd'hui on a un taux de jeunes hors cadre familial, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas issus du monde agricole, qui viennent s'engager dans le métier d'agriculteur. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une grande ouverture d'esprit pour notre métier. Et puis c'est aussi des profils qui sont très diversifiés. C'est fini le temps où on reprenait l'exploitation de papa, maman, on faisait comme eux. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent s'installer ont des vrais projets, souvent des projets très très économiques, avec des grandes diversifications, des pâtes, de l'huile, tout un tas de produits, avec un lien plus fort avec le consommateur.
La crise sanitaire a bouleversé votre quotidien ?
Oui, la crise sanitaire a bouleversé notre quotidien. De toute façon, peu importe les filières dans lesquelles on est, on a tous eu des problèmes d'approvisionnement. On a tous été sensibles aussi au manque de produits dans les grandes distributions et dans les centres d'approvisionnement. Et ça fait aussi qu'on s'est réadapté. Je pense que ça a été une chance, une opportunité pour un certain nombre d'entre nous qui avons su transformer l'essai. Je pense à un collègue en pâte, en huile ou tout autre produit qui se sont lancés directement dans la transformation pour justement pallier à ce manque et qui aujourd'hui sont confortés dans leur choix parce qu'ils ont retrouvé un vrai lien avec le consommateur et aussi pour la plupart une diversité des revenus.
Eh bien, votre optimisme fait du bien à entendre. Merci beaucoup Samuel Vandal. Bonne journée à vous sous le soleil de la Seine-et-Marne et rendez-vous sur RTL.fr et sur notre application pour suivre notre semaine de l'agriculture dans le détail. Dans un instant, on va retrouver Isabelle Choquet pour le Tout Info, la météo de Louis Bodin, notre rendez-vous avec les grosses têtes et une pépite musicale qui sera comme chaque jour signée Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
A tout de suite, je salue Louis aussi Louis Bodin.
Bonjour Yves.
A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h25, Anthony Martin, il est temps de découvrir notre pépite musicale du jour.
Alors, à la question « Comment aimeriez-vous mourir ?», Serge Gainsbourg avait répondu « Moi, j'aimerais mourir vivant ». Le 2 mars 1991, il y a donc 30 ans aujourd'hui, Gainsbourg nous quittait. Sans provoque, à l'âge de 62 ans, chez lui, rue de Verneuil, à Paris. J'avais envie de rappeler ce matin que Gainsbourg a été auteur-compositeur de publicité pour la radio. C'était même un laboratoire d'idées pour ses chansons. En 1970, il avait signé 10 spots pour un apéritif italien bien connu en France. On est donc un an avant la sortie de son album « Culte Histoire » de Melody Nelson. Et on entendait déjà la valse de Melody dans cette pub.
Le soleil est rare et le monde aussi des tout change grâce à Martini.
Ça crépite, hein, oui. C'est d'époque. Autre spot de la même série, écoutez.
Oui.
Précis, sous le tropique, Martini en dessous du Capricorne ou du Cancer. Peter Martini en pleine mer.
Deux doses. Un autre spot repose sur une musique qu'il avait donnée à Mireille Darc. Et dans le texte de cette autre pub, eh bien, on entend un zeste de citron. Des mots, évidemment, qu'il utilisera dans la chanson Lemon in Zest 14 ans plus tard.
Un martini et deux cubes, deux glacés, la sub, l'utilité d'un zeste. Deux citrons et jolis tubes, ivre de ma pub. De ciel bleu.
La légende raconte que Serge Gainsbourg aurait écrit ses spots publicitaires dans le taxi qui le conduisait au studio d'enregistrement. Autre création.
Il est bien capable, oui.
Ouais, autre création signée Gainsbourg pour une autre marque en 1972, une chanson pour un parfum.
C'est que pour un homme, il y a des façons subtiles de mettre une femme à la raison. Ce qui fait mon charme, et c'est là mon âme. Secrète
pour un homme
de Caron.
Pour un homme
de Caron.
Une eau de toilette et toute une ligne de charme.
C'est Jane évidemment, qui est aux côtés de Serge. Ces pépites signées Gainsbourg sont restées inédites sur disque pendant plus de 30 ans. Elles sont sorties sur une vieille compilation en 2001 seulement.
Merci beaucoup. C'était très étonnant et surtout très amusant. On se dit à demain. À tout moment en podcast via notre site RTL et rendez-vous à 9h dans Laissez-vous tenter pour célébrer et se souvenir de Serge Gainsbourg. Les grosses têtes plaisantes avec l'actualité, ce matin, c'est Monsieur Patate qui les fait réagir.
Hasbro a annoncé, la célèbre marque américaine, que désormais la marque ne s'appellerait plus Monsieur Patate parce qu'il ne fallait plus genrer Monsieur Patate. Non,
non. Moi, je suis rentré dans la chambre de ma fille, j'ai pris tous ces Monsieur Madame, je les ai brûlés direct.
Mais alors maintenant, ils vont s'appeler comment ? Patate ?
Patate !
On veut l'égalité dans la patate. Ça, c'est important.
Mais d'ailleurs, on devrait dire.
D'ailleurs, quand tu les épluches pour faire tes frites, tu regardes avant. Il
faut faire gaffe. Hein.
Ça existe encore, Monsieur Propre ? Parce que là. Ça va être un peu chaud pour ses fesses.
Ça existe encore.
Il y a Madame Dégueulasse qui n'a pas voulu l'épouser.
Et depuis le grand studio RTL, cet après-midi, dès 15h30, Laurent Ruquier sera accompagné de Stéphane Plaza, Isabelle Mergault, Jean-Jacques Perroni, Valérie Trierweiler, Stevie et Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre qui sera aussi l'invité de Bonus Track ce soir avec Éric Jean-Jean. Rendez-vous dès 21h, vous passerez un excellent moment. Louis Baudin.
Oui.
Rebonjour. La météo.
La météo, encore beaucoup de lumière aujourd'hui.
Oui.
Du grand ciel bleu même dans toutes les régions de l'Est, précisément de l'Île-de-France jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, du Massif central au nord-est, des Alpes jusqu'à la Corse, ça sera encore du grand ciel bleu. J'attendais quelques brouillards, il n'y en a pas, en tout cas très peu, sur mes observations. Et puis dans l'ouest, là sera un petit peu plus mitigé avec un petit voile nuageux qui va circuler des Pyrénées jusqu'à la Bretagne, sans grande conséquence, il n'y aura pas de précipitation, sauf très localement peut-être sur la pointe bretonne ou encore près des Pyrénées, et encore pas sûr. Il restera quelques nuages également autour du Languedoc-Roussillon parce qu'on aura toujours un petit peu de vent d'autant comme hier en région toulousaine, jusqu'à 70-80 km/h. Et puis côté température, c'est toujours le grand écart entre ce matin où on a dégelé à Colmar, à Beauvais, à Metz, à Épinal, il y en a en Normandie dans le centre, on a déjà 14 degrés à Biarritz, cet après-midi où là, ces températures vont encore un peu grimper par rapport à hier, 14 à 17 degrés pas moins dans la moitié nord et 17 à 18 degrés au moins dans le sud.
Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui écoutez RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 2 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et si vous avez l'intention d'acheter un réfrigérateur ou une télévision, tendez l'oreille, il y a du nouveau. Depuis hier, l'étiquette énergie a changé. Il faut dire qu'elle vient de fêter ses 25 ans. Et depuis tout ce temps, l'électroménager a fait des progrès. Ce qui était économie hier ne l'est plus aujourd'hui, Armelle Lévy.
Et oui, vous étiez très satisfait d'avoir acheté un lave-vaisselle A la semaine dernière, censé être très économe, mais aujourd'hui, il est classé G. C'est très déroutant, mais en fait, cette étiquette créée il y a 25 ans n'était plus pertinente parce qu'on a ajouté au fil des années des classes supplémentaires, les fameux A+, A2+, A avec 3+. Et comme chaque nouveau modèle était plus performant que le précédent, un modèle A+, était finalement le moins performant du marché. Donc là, la Commission européenne remet tout à plat. La classe A est laissée volontairement vide pour pousser les fabricants à innover et à progresser en matière d'économie d'énergie. Mais en choisissant la classe B, la meilleure aujourd'hui, c'est 150 euros d'économiser par an sur la facture. Sachant que les réfrigérateurs d'aujourd'hui consomment 75% d'énergie de moins qu'il y a 25 ans et les lave-vaisselles consomment deux fois moins d'eau qu'il y a 10 ans.
Explication RTL signée Armelle Lévy.
Alors c'était prévisible, Nicolas Sarkozy a bien fait appel de sa condamnation dans l'affaire des écoutes.
L'ancien président a été condamné hier à 3 ans de prison, dont un d'enferme pour corruption et trafic d'influence. C'est du jamais vu. Jacques Chirac avait été condamné lui aussi, mais seulement à du sursis. Le tribunal de Paris est resté en deçà des réquisitions du parquet national financier, mais tout de même le choc est rude. Et toute la droite fait bloc derrière son champion, à commencer par Christian Jacob, le patron des Républicains.
C'est une décision qui est incompréhensible, invraisemblable, totalement disproportionnée. Décision de justice qui se fonde sur un délit qui n'a pas été commis. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un de corrompu dans cette affaire ? La justice répond non. Est-ce qu'il y a eu un corrupteur ? Non. Et on arrive à 3 ans de prison. Se pose vraiment la question de l'existence même du parquet national financier, ses méthodes d'action et son niveau d'indépendance. Et je pense que tous les Français se posent la question suite à un tel acharnement judiciaire.
Christian Jacob, pardon, au micro RTL de Marie Mollet. L'ancien ministre Jean-Michel Baillet est accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Il a été entendu hier par la police. Les faits se seraient déroulés il y a 41 ans. Ils sont prescrits et l'ancien président du Parti radical de gauche conteste formellement. La campagne de vaccination anti-Covid passe un nouveau palier. Le vaccin AstraZeneca va être utilisé pour les 65-75 ans avec facteur de risque. Cela fait 2,5 millions de Français vaccinables en plus. C'est ce qu'a annoncé hier soir le ministre de la Santé.
Désormais, toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus
et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités, comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge, donc les 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours, en pharmacie.
Olivier Véran hier soir sur France 2. Olivier Véran qui indique également que les personnes qui ont déjà eu le Covid n'auront plus besoin de deux injections. Une seule suffira. En Moselle, il faut désormais montrer patte blanche pour pouvoir se rendre en Allemagne. Berlin exige un test négatif de moins de 48 heures. Le début de la galère donc pour les quelques 20 000 travailleurs transfrontaliers français représentés à Forbach par Bernard Hureau.
Bah, moi, je trouve que là, c'est une vraie torture, quoi. Hein, faut dire le mot. La personne qui rentre du travail, comment veut-elle se faire tester s'il y a couvre-feu à 18 heures? Ça va poser de graves problèmes, quoi. C'est une fermeture de frontières déguisée. C'est à se demander s'ils ne sont pas devenus fous, quoi. Hein, c'est la question qu'on se pose, quoi. Et puis là, vraiment, il y a un ras-le-bol général.
Propos recueillis par Yannick Holland. Face au Covid, il faut tenir encore 4 à 6 semaines. Voilà ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron. Le président en déplacement en Seine-Saint-Denis était interrogé par un jeune qui demandait une levée du couvre-feu. Aux États-Unis, on apprend que Donald Trump et Melania se sont fait vacciner discrètement contre le Covid en janvier, alors qu'ils étaient donc encore à la Maison-Blanche. Dans son discours dimanche soir, l'ex-président a estimé que tout le monde devrait se faire vacciner. Et puis en Russie, Alexei Navalny est arrivé hier dans la région de Vladimir, à 200 km de Moscou. C'est là que se trouve la colonie pénitentiaire où le premier opposant à Vladimir Poutine doit purger sa peine de 2 ans et demi de prison. Une structure qui rappelle immanquablement le goulag soviétique, Christophe Decroix.
Oui, c'est une colonie pénitentiaire héritée de l'époque soviétique. Une colonie dans laquelle les détenus sont tenus de travailler pour payer les frais de logement qui leur sont imposés. Des journées de travail harassantes et interminables selon les ONG de défense des droits humains. Alexei Navalny pourra y travailler comme cuisinier, bibliothécaire ou couturier, annonce rassurant le directeur des services pénitentiaires russes qui promet qu'aucune menace ne pèsera sur la santé du condamné politique. En réalité, selon d'anciens détenus, cette colonie, entourée d'une clôture de tôle surmontée de barbelés, est une machine à briser où les prisonniers n'ont quasiment pas de temps libre et sont complètement coupés du monde extérieur. Harcèlement, humiliation, le but sera de le casser psychologiquement, estime un spécialiste. Navalny devrait y rester plus de 2 ans.
Christophe Decroix, chef du service étranger d'RTL. Au rayon sport, sachez que Joachim Noah raccroche ses baskets. Le fils de Yannick Noah aura passé 13 saisons en NBA, notamment sous le maillot des Chicago Bulls. À 36 ans, il affiche l'un des plus beaux palmarès du basket français. Et puis à la croisée de l'art et de l'histoire, un tableau de Winston Churchill vient d'être adjugé à Londres pour plus de 8 millions d'euros. C'est sans doute le plus célèbre de l'ancien Premier ministre britannique, la tour de la mosquée Koutoubia, peinte lors d'une visite officielle à Marrakech en 1943. Churchill l'avait offert à l'époque à Roosevelt et dernièrement, ce tableau avait atterri dans la collection du couple Angelina Jolie-Brad Pitt.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et nous verrons comment nos politiques gèrent la fatigue entre micro-sieste et soirée camomille.
Il est 7h36. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Je ne vous ai pas entendu arriver ce matin, François.
Eh oui, je suis venu en voiture électrique et vous savez quoi?
Non.
C'est vous, Isabelle et Louis qui l'avez payé.
Ah bon, on est très heureux de cette générosité.
Comment le contribuable subventionne massivement le boom de la voiture électrique? Je vous raconte ça dans un instant.
A tout de suite pour l'Angle Éco.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Angle Éco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
L'Europe vient de dépasser la Chine dans les ventes de voitures électriques, dites-moi.
Oui, en 2020, l'Europe a compté pour près de la moitié des ventes mondiales de voitures propres. Alors que c'était la Chine qui était en tête jusqu'ici. Au total, il s'est vendu 1 400 000 voitures électriques sur le vieux continent l'année dernière. C'est une hausse de 137%. Sur ce 1,4 million, il y en a eu 110 000 pour le marché français. Mmh. Et ce qui est frappant également, c'est que c'est en Europe que sortent le plus de modèles électriques. Il y en a eu 65 l'année dernière, c'est 2 fois plus qu'en Chine et 4 fois plus qu'aux États-Unis. Et en 2021, ça sera encore plus net. 99 nouveaux modèles électriques sont attendus chez nous.
Comment s'explique cette faveur soudaine de véhicules qui n'étaient que marginaux jusqu'en 2019, c'est-à-dire il y a 1 an et demi?
Écoutez, rien à voir avec la bonne volonté ou l'apparition soudaine d'une bonne conscience écologique.
Très bien.
Il y a 2 raisons. Tout d'abord, les normes de pollution acceptables édictées par l'Europe se sont considérablement durcies. On calcule désormais les émissions moyennes par constructeur et il y a de très lourdes amendes lorsque l'un d'entre eux dépasse le seuil admis, un seuil qui ne cesse de s'abaisser au fil des ans. Les constructeurs sont donc en train de transformer leur gamme pour échapper au coup de marteau de Bruxelles.
Mais ça représente combien les aides ?
Alors c'est ça, c'est que parallèlement vous avez des gouvernements qui subventionnent massivement l'achat de ces autos par le consommateur. C'est énorme. Et en particulier en France et en Allemagne, les deux pays où la croissance des ventes a été la plus forte. Chez nous, si on se fie à la pub de la Zoé de Renault, vous savez que c'est la voiture électrique la plus vendue en 2020, les aides financières disponibles peuvent atteindre 15 000 euros. 15 000 euros par véhicule. Si on cumule bonus écologique, prime à la conversion et aide régionale.
Et ça veut dire que ces voitures sont ultra, ultra subventionnées ?
Ah mais Yves, personne ne le dit, mais c'est un marché complètement artificiel. Parce que sans ces primes, les véhicules sont inabordables, beaucoup plus chers que les voitures à moteur thermique. La Zoé, c'est une petite voiture, hein. Oui. Elle se vend entre 32 000 et 36 000 euros au prix catalogue. Elle est donc subventionnée à hauteur de 30 à 40%. C'est le contribuable qui est en train de financer largement la transition écologique des véhicules particuliers. Ça ne pourra pas durer.
Bon, et si on arrête les aides ?
Toutes les expériences de suppression ou de diminution importante de ces aides, notamment en Chine, se sont traduites par des chutes brutales des ventes. Parce que le prix élevé, associé à une autonomie kilométrique des batteries qui est encore faible, et puis à la difficulté de trouver des bornes, hein, des bornes de recharge, tout ça, ça fait que la voiture électrique n'est pas du tout compétitive sans subvention. Tout le pari, c'est que les prix vont baisser et l'autonomie progresser. C'est un pari.
Oui.
La vérité, c'est que les voitures vont coûter plus cher. Renault sort ces jours-ci son modèle d'entrée de gamme. C'est une Dacia électrique. Elle s'appelle la Spring. Mm-hmm. Bon, elle vaut quand même 15 000 euros. C'est bien plus qu'une Dacia normale, hein. Et pour obtenir ce prix, il a fallu la faire fabriquer en Chine. Une voiture dite propre qui commence donc sa carrière en émettant pas mal de carbone pour faire 10 000 km à bord d'un cargo marchant au fioul.
On a bien compris l'image. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve aussi en podcast sur l'application mobile RTL. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Florian Bachelier, le premier questeur de l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur la condamnation de Nicolas Sarkozy et puis nous verrons ce qu'il pense aussi de ses anciens amis socialistes qui refusent de faire barrage au RN.
A tout de suite Alba avec votre invité.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le député, premier questeur de l'Assemblée nationale, Florian Bachelier.
Bonjour Florian Bachelier, premier questeur, je le rappelle, c'est vous qui gérez les aspects administratifs et vous qui tenez les cordons de la bourre de l'Assemblée nationale. Vous êtes également un proche d'Emmanuel Macron. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné hier à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption. Alors la droite, LR, parle d'acharnement de la part du parquet national financier. La gauche estime que la justice fait son travail. Et vous, vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que les politiques devraient s'abstenir de faire des commentaires sur les procédures judiciaires en cours. Il y a un seul principe qui prévaut en la matière, c'est l'absence de commentaires. Il y a un principe aussi fondamental qui est celui de la présomption d'innocence. Je suis avocat. C'est à ce titre que je le rappelle, la présomption d'innocence, ça permet de dire, comme le président Sarkozy a fait appel, qu'il est innocent jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation définitive qui dise le contraire. Le président Sarkozy, c'est un justiciable comme les autres. Il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas en dessous des lois non plus. Donc je ne commenterai pas cette décision de justice qui a été marquée d'un appel dès hier. Mmh. En revanche, en tant qu'avocat, j'exprime quelques doutes, quelques inquiétudes sur deux points, des interrogations sur deux points avec une pensée pour mon confrère Herzog qui a été hier condamné à une interdiction d'exercer son métier
pendant cinq ans.
Un premier point, c'est un principe fondamental là aussi qui doit être rappelé, qui est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme. Une conversation entre un avocat et un client ne peut pas être utilisée contre un client. C'est un principe essentiel qui base toute l'œuvre de justice. Il y a une enquête administrative qui est en cours, qui vise 3 magistrats du parquet national financier, qui fait suite à un classement sans suite de l'inspection générale de la justice, qui est donc une enquête administrative qui fait l'objet d'un rapport qui a été remis au Premier ministre il y a une quinzaine de jours. Je serai très attentif sur le sort qui sera réservé et notamment sur l'idée que le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi ou pas. Parce que j'entendais...
Donc vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces écoutes illégales ?
Les écoutes sont parfaitement illégales, de ce que je comprends des éléments du dossier qui ont été rapportés par l'entièreté, je vais dire, de vos confrères qui ont suivi cette procédure judiciaire, et même ceux qui n'ont pas une grande sympathie ou une grande empathie pour le président Sarkozy. Moi, je suis pas, j'ai jamais été LR, j'ai jamais voté pour le président Sarkozy, mais j'ai eu, comme vous, les informations et notamment des interceptions. Enfin, j'ai constaté qu'il y avait des interceptions de téléphoniques, ce qu'on appelle les interceptions téléphoniques, des écoutes téléphoniques, qui semble baser une décision. Après, je n'ai pas lu la totalité des 150 pages du verdict d'hier, mais je pense qu'il y a une interrogation plus globale qui doit être menée et qui donnera lieu, je pense, à des évolutions à l'avenir. Mais je crois que vous recevez tout à l'heure le patron du parquet national financier. Ça peut être une question pertinente. Et puis, il y a un deuxième sujet d'inquiétude pour l'avocat que je suis, c'est ce phénomène de judiciarisation de la vie politique, qui, moi, m'inquiète. En souvenir, il y a quelques mois, les perquisitions réalisées de bon matin chez le Premier ministre Édouard Philippe, chez Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, chez Olivier Véran, ministre de la Santé en exercice, à leur domicile, en pleine crise sanitaire. Je crois qu'il y a un principe fondamental là aussi qu'il nous faut bien préserver, c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, entre le législatif et entre le judiciaire. Donc il y a pour moi deux chantiers peut-être à accélérer demain en la matière, notamment un qui a été relancé par le président de la République il y a quelques jours.
Sur la responsabilité des magistrats.
Exactement, une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Responsabilité des magistrats et de pair, l'indépendance des parquetiers. Je pense qu'il y a une réforme plus générale d'ailleurs qui ne concerne pas que le PNF. Le parquet national financier, qui concerne l'ensemble des procureurs du parquet. Je pense qu'il y a une indépendance qui est de fait, mais qui doit être
Florian
actée.
Bachelier.
La contrepartie, c'est qu'on a un niveau de responsabilité. Personne ne le dit, mais si vous regardez les statistiques sur les condamnations réelles du Conseil supérieur de la magistrature, vous tombez sur un chiffre qui est assez facile à retenir, zéro.
Sur les condamnations. Vous parliez de séparation de pouvoir, le soutien de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui affiche son soutien à une personne condamnée, même si c'est un ami. C'est quoi, vous dites quoi? C'est humain ou c'est maladroit?
Si je ne veux pas, et si ma ligne directrice c'est de ne absolument pas commenter les décisions, les procédures judiciaires en cours, je me vois mal commenter les commentaires sur les procédures judiciaires en cours. Dès lors, il m'apparaît urgent de me taire.
Florian Bachelier, vous êtes un ancien socialiste, plutôt centre-gauche, un ancien strauss-kahnien, je crois. Le journal Libération a consacré sa une ce week-end à ses lecteurs de gauche qui ne voteront plus jamais pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, autrement dit, qui ne feront plus barrage. Donc ça veut dire que le Front Républicain, c'est terminé.
J'ai lu la tribune commise par Olivier Faure, oui, dans Libération ce week-end.
Le patron du Parti Socialiste.
Le secrétaire, c'est bien de le préciser, le secrétaire du Parti Socialiste. Et la réflexion que je me faisais en venant d'où je viens, vous l'avez rappelé, c'est qu'on a quand même, avec Olivier Faure, avec Anne Hidalgo, avec un certain nombre de caciques du Parti Socialiste, l'impression qu'ils vivent dans un monde imaginaire, dans un monde parallèle, qui vivent en réalité à côté du pays. La France, c'est pas un parti politique. La France, c'est une nation. J'ai aussi l'impression, à lire Olivier Faure, qu'il ne s'est jamais remis vraiment du choix des Français en 2017, qui consistait à dire qu'il fallait dépasser ce clivage, cette lecture clivante gauche-droite de la vie politique, qui, je pense, a fait plus de mal que de bien.
Mais c'est quoi ce monde parallèle dans lequel ils vivent? C'est-à-dire, il y a les gens de gauche qui continuent de voter Macron, vous pensez?
Je pense, mais bien sûr. Et puis surtout, les gens de gauche ne sont pas en train de se demander tous les matins si les décisions qu'on prend sont de gauche ou de droite. Et le réflexe pour les politiques, c'est de dire « Mais si, regardez, je suis de gauche parce que je lutte pour l'emploi, je lutte pour l'apprentissage, j'ai fait le reste à charge zéro, le combat environnemental, on peut en être fier, on est vice-champion du monde sur le sujet, j'ai un budget de la justice qui est historique, j'ai un budget sécurité qui est historique, j'ai fait toute une série de choses. » que je veux mettre dans des cases. Moi, je pense que le Parti Socialiste est mort à partir du moment, à partir du jour où il a arrêté de produire des idées. À partir du moment où il a abandonné l'idée d'universalisme, de laïcité, d'école de la République, de sécurité, d'espérance, comme le rappelait Malek Bouti.
Malek Bouti dit « Cette gauche qui est devenue méchante et aigrie, c'est ce que vous pensez donc ?»
C'est une partie. Une partie, évidemment, il ne faut pas généraliser. Il y a des parlementaires, je prends l'exemple, qui sont extrêmement...
Constructif.
Oui, constructif. Je pense à Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Je peux penser à Boris Vallaud. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais au moins, il y a des contre-propositions, il y a des idées qui sont produites. Et puis, de là où je viens, moi, j'ai grandi avec cette référence, qui est un parti qui changeait la vie de millions de Français, avec des figures historiques, avec le président Mitterrand, avec Michel Rocard, avec Jean-Pierre Chevènement, avec Robert Badinter, et puis plus
avant Clémenceau. Et vous ne vous y retrouvez plus.
Jaurès, etc. Enfin,
c'est
pour
ça que vous êtes allé chez LREM.
Deux responsabilités qui, aujourd'hui, n'existent plus. Et quand je lisais la tribune Olivier Faure, en fait, il y a une forme de mélanchonisation des esprits, en tout cas de l'esprit d'Olivier Faure. Il pousse le constat, enfin, il pousse l'idée, pardon, que le Rassemblement National, au fond, c'est équivalent à la République En Marche. Et je pense qu'il joue un jeu dangereux quand il le fait. C'est, à mon sens, parfaitement irresponsable. Et je dirais un dernier point, c'est que les seuls à dénoncer l'imposture du Rassemblement National depuis 4 ans, c'est la République En Marche, c'est la majorité présidentielle. Je n'entends aucun parti d'opposition taper sur les idées du Rassemblement National. Donc il ne faut pas juste faire des manifestations avec des banderoles pour dire F comme fasciste et N comme nazi. Il faut faire, il faut dire, il faut produire.
Venons-en maintenant à la crise du coronavirus. Florent Bachelier, vous qui êtes dans les petits papiers du président de la République, hier à des jeunes qui lui demandaient d'assouplir le couvre-feu, le président a demandé de tenir encore 4 à 6 semaines. Ça veut dire quoi? Après, c'est terminé?
Non, ça veut dire... Non, il faut être maire de Paris pour le penser. Non, ça veut dire que, concrètement, nous avons un combat sur la vaccination à accélérer, à continuer d'accélérer, que nous sommes dans un équilibre qui...
C'est vraiment un combat, la vaccination, parce que plus personne ne comprend rien. On ne sait pas si les pharmacies sont livrées, si les médecins peuvent vacciner. On apprend qu'il y a 900 000 doses d'AstraZeneca qui dorment dans un placard.
C'est un combat de chaque jour et il y aura des leçons à tirer à la fin de cette période. Ça, c'est évidemment clair.
Ça, c'est sûr, oui, mais en attendant les leçons, on peut faire quelque chose ou pas?
Ben, il faut continuer de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'accélérer. On ne le dit pas parce qu'on aime bien parfois se critiquer, nous, les Français. Mais par exemple, en termes de vaccination, nous sommes passés devant les Allemands sur la première injection. On l'a pas beaucoup entendu.
Mais donc 4 à 6 semaines, il veut dire quoi, le président ?
Mais ça veut dire que, justement, il y a cette accélération de la campagne vaccinale, que pour l'instant, les chiffres que nous avons, qui sont très disparates, hein, suivant les régions, je pense à la région Bretagne notamment, nous permettent de penser que la mesure intermédiaire, enfin la mesure d'équilibre, qui n'est pas un confinement, mais un couvre-feu, nous permet d'être sur, justement, de maintenir 4 à 6 semaines cette partie-là pour, à la fin des 6 semaines, être sur une vaccination beaucoup plus massive.
J'ai juste une question sur le front économique. Il y a des indépendants qui n'ont toujours pas touché d'aide au fonds de solidarité, d'autres pour lesquels cette aide s'est arrêtée. La Fédération des auto-entrepreneurs dit que 37% d'entre eux n'ont pas touché l'aide de décembre. C'est quoi le problème, rapidement ?
Je les entends particulièrement en Bretagne, chez moi, en Ille-et-Vilaine, à Rennes. L'État a mis en place, et je pense que chacun peut le reconnaître, un amortisseur exceptionnel, notamment la nationalisation des salaires, je me dépêche. mais force est de constater que des formulaires qui arrivent trop tardivement, une complexification, une illisibilité du système, et puis aussi, je pense, dans les leçons à tirer, peut-être une méconnaissance d'une partie de la haute administration française.
C'est Bercy qui ne fait pas bien son travail, là.
Je pense qu'on paye aussi une forme de méconnaissance du monde de l'entreprise, notamment de la petite et moyenne entreprise en France, de la part de l'élite administrative. Ça fait partie des leçons qu'il nous faudra tirer. Je pense que dans la formation, si chaque directeur de service de Bercy pouvait faire un stage d'un an dans une petite entreprise française, je pense que tout le monde y gagnerait.
Eh bien, le message est envoyé. Merci beaucoup, Florian Bachelier.
Concernant Nicolas Sarkozy, une conversation entre un client et son avocat peut donc être utilisée contre lui. Et sur la situation politique du pays et le Front républicain, le PS est mort à partir du moment où il a cessé de produire des idées. Il y a une mélanchonisation de la pensée d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, vient de nous dire Florent Bachelier. L'intégralité de l'entretien est à
Florian.
Florian, j'ai dit Florent. Ah bon, Florian Bachelier. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.
Merci.
Dans un instant, Cyprien Sini.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Il est 7h56, vous surfez ce matin, Cyprien, avec le président Macron, reconverti en épidémiologiste.
Mais oui, vous savez, les épidémiologistes, ce sont ces médecins qui tentent de prévoir l'évolution de la circulation du virus. Voilà. Et alors, oubliez les Catherine Hill ou Martin Blachier que vous voyez partout à la radio, à la télé. Non, le meilleur, c'est le président. L'Élysée, c'est devenu la fac de médecine depuis un an. Et hier, il a annoncé donc...
Emmanuel Macron, en déplacement ce matin à Stain, interpellé par un jeune homme, a expliqué qu'il fallait encore tenir 4 à 6 semaines.
C'est bon ça ! Plus que 4 à 6 semaines à tenir, les amis ! Joie et bonheur, 4 à 6 semaines, oh, c'est rien. Quand on sait que ça fait un an qu'on est dedans, hein, le bout du tunnel, l'espoir. Bon après... On va quand même y aller mollo sur l'enflammade. Hein. Non, parce que le 14 juin dernier déjà, nous est quoi le docteur Macron ?
Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France.
Ouais, le 14 juin. Bon, c'était on a retrouvé la France, mais moyen quand même. Ça n'a pas duré des masses de temps. Et puis alors, un mois plus tard, le 14 juillet...
S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts ?
Oui, nous serons prêts. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face.
Ah bah oui, au top de l'organisation, on a vu. Bon, un petit reconfinement, mais bon. Il le sentait bien en plus, ce reconfinement de novembre, puisqu'il nous expliquait le 24 novembre, avec un certain optimisme, hein, c'est vrai.
Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour, nous pourrons alors franchir un nouveau cap.
Bah oui, il fallait tenir jusqu'au 15 décembre, nouveau cap. Et donc le 15...
Nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé.
Ouais, en fait, on ne le voyait pas trop comme ça, le nouveau cap. Un petit excès d'optimisme, peut-être. Du coup, cette histoire de 4 à 6 semaines du docteur Macron, on va quand même les prendre avec des pincettes. Hein. Après... C'est vrai que là, ils misent tout sur la vaccination et la météo. Tiens d'ailleurs, sur la vaccination, c'était quoi le planning déjà ?
Mais ce qui est important que les Français sachent, c'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février.
Pop, 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 4 millions fin février, nous sommes donc le 2 mars. Et on est à combien ? Attendez, 2 967 000 qui ont eu la première dose. Oh, ça va, il en manque 1 million, on est passé à ça, quoi.
Les calculs sont pas bons, Kevin.
Ouais, mais non, mais lui, c'est pas Kevin, c'est Olivier. Mais effectivement, les calculs sont pas terribles. Bon, bah, y a plus qu'à miser sur la météo, mais ça, c'est à cause de Louis Baudin, donc on est mal barré.
Bien sûr.
Alors, pour vous donner du baume au cœur, hein, n'oubliez jamais.
Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous.
Comptez sur nous jusqu'à quand, on ne sait pas trop quand même. Hein.
J'ai bien retenu, hein. Mollo sur l'enflammade.
Hein. Ah, mollo voilà. Sur l'enflammade.
Il est 7h59. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto.
Le monde de demain.
Dans RTL Soir, Louis Baudin.
Bon, mais bon. Il va faire beau.
Ben, je sais pas si c'est beau. Et oh là, mollo sur l'enflammade.
Vous êtes sous pression,
mollo
Louis.
Mollo sur le soleil, oui. Bon, grosse pression avec ce soleil qui s'imposera très facilement dans toute la moitié est. Dans l'ouest, là aussi, belle luminosité. Mais c'est vrai, par moments, un petit voile nuageux, des nuages très élevés, donc sans grande conséquence, sauf sur la pointe bretonne ou encore près des Pyrénées où il y aura peut-être quelques gouttes de pluie, mais ça n'ira pas très loin. Puis toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lion, parce qu'il y aura toujours du vent d'autant, un vent qui souffle de la Méditerranée vers la région toulousaine jusqu'à 60-70 km. Et puis côté température, grand écart entre ce matin où on a encore des gelées fréquentes du centre nord et dans toutes les régions de l'est, et cet après-midi où ça sera très doux, 14 à 17 degrés pas moins dans la moitié nord et 17 à 18 degrés au moins dans la moitié sud.
Merci Louis Baudin, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Forain. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce coup d'accélérateur sur les vaccins.
L'AstraZeneca va être étendu aux 65-75 ans, soit 2,5 millions de Français en plus. Dans l'actualité également, la droite sous le choc après la condamnation de Nicolas Sarkozy et puis le silence de l'Église sur la pédophilie. Aujourd'hui, les archives parlent et c'est vertigineux.
RTL Matin.
Et on va tout de suite en Moselle, où les déplacements vers l'Allemagne sont compliqués par les nouvelles restrictions en vigueur depuis ce matin. Berlin, vous le savez, exige un test négatif de moins de 48 heures. Bonjour Dimitri Ramelot.
Bonjour.
Vous êtes à Spicheren, à la frontière, où l'on se presse pour obtenir le fameux sésame. Les tests se déroulent sur le parking d'une caserne de pompiers allemands.
Oui, à 6h15, déjà une cinquantaine de personnes, dont Robert, 56 ans, cadre médical, dans la file d'attente piéton.
Je commence à 7h et je suis arrivé à 5h30.
On ne sait pas s'il y a une file d'attente de 1 heure, de 2 heures. Ou... Si encore il ferait le test une fois par semaine, on comprendrait encore. On ne peut pas se lever toujours 3 heures avant d'aller au travail.
Et pendant ce temps, dans la ligne d'à côté réservée au prélèvement au volant, Christiane remplit une fiche de renseignement à la lumière des néons sous une grande tente blanche.
Nom, prénom, date de naissance, adresse, homme-femme, motif de rentrée en territoire allemand, professionnel ou autre.
Par moins un degré, dans la nuit noire, les deux files avancent lentement jusqu'au poste de prélèvement.
Ça se fait dans le nez ou dans la bouche ? C'est ça. Les résultats, on peut scanner le QR code et on reçoit le résultat.
Passé l'épreuve de l'attente, chacun attend son résultat par SMS, QR code donc, ou par mail, les yeux rivés sur son smartphone.
Une perte de temps de 1h30 et je dis rebelote. Je vais dormir là avec mes collègues, oui. C'est un stress pas possible, ça. Je laisse allumer, j'attends que ça sonne et si ça sonne pas, on rentre à la maison.
Pas de cas positif pour Émilie et ses 9 collègues prises de poste dans l'entreprise où elles sont chargées de nettoyage avec 2 heures de retard.
Un reportage signé Dimitri Ramelot. La campagne de vaccination accélère, les règles vont changer. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier soir. Plus de personnes sont désormais concernées. Le vaccin AstraZeneca va pouvoir être utilisé pour les plus de 65 ans avec comorbidité, soit 2,5 millions de personnes en plus. Les dernières études montrent qu'il est efficace, quel que soit l'âge, pour prévenir les formes graves du Covid. Quant à ceux qui ont eu la maladie récemment, une seule dose d'un des 3 vaccins disponibles suffira. On va tout de suite vous expliquer tout cela grâce à la brigade RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors pourquoi ce changement de pied soudain ?
Parce que les autorités disposent désormais de preuves scientifiques qu'elles n'avaient pas jusque-là. Bonne nouvelle pour les 75 ans qui étaient jusqu'à maintenant soit trop jeunes, soit trop vieux pour être vaccinés. Sont concernés dans un premier temps ceux qui ont des facteurs de risque, c'est un tiers des 65-75 ans, soit 2 millions de personnes. Autre conséquence, en utilisant qu'une dose au lieu de deux, pour les dizaines de milliers de personnes qui ont déjà eu le Covid, eh bien des vaccins vont être libérés et utilisés en ces temps de pénurie, de limitation de la production. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Et où les plus de 65 ans vont-ils pouvoir se faire vacciner ?
Mais comme les 50-64 ans, chez leur médecin, à l'hôpital, là où ils sont suivis, ou dans quelques jours à la pharmacie.
Sauf qu'on a le sentiment que les médecins ne se précipitent pas pour organiser la vaccination.
Ah, c'est sûr, vous avez raison. Et pourtant, il l'a réclamé à corps et à cri depuis des semaines. Pour les 2 premières semaines, un seul chiffre, moins de 50 000 médecins ont commandé leur dose d'Astra. Le gouvernement espérait 70 000 rien que pour la première semaine. Sur le 1 200 000 doses livrées, seuls 20-25% ont été utilisées. C'est très peu. C'est 80% pour le vaccin Pfizer. Des dizaines de milliers de flacons dorment donc dans les frigidaires des officines, des médecins, des hôpitaux. Alors attention, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas gâchés. Ils vont servir dans quelques jours, quelques semaines. Surtout si les plus de 65 ans peuvent en bénéficier et si les pharmaciens peuvent vacciner. Mais le démarrage de cette vaccination avec AstraZeneca est très poussif. Alors qu'on est dans une course contre la montre serrée pour éviter un reconfinement.
Sophie, pourquoi si peu de médecins veulent-ils vacciner ?
Alors leurs arguments, beaucoup sont en vacances, beaucoup sont débordés, n'ont pas le temps d'appeler leurs patients pour organiser, regrouper ces 10 rendez-vous en une seule matinée. Tous les médecins n'ont pas de secrétaire. Ils critiquent aussi la paperasse pour passer commande. En échange, ils sont payés 9,60 € par injection. Et puis, il y a depuis le début une certaine défiance vis-à-vis de ce vaccin, des effets secondaires intenses, mais peu graves pour une toute petite minorité, et des doutes sur l'efficacité. Désormais, avec cette nouvelle impulsion donnée à la campagne de vaccination, le ministre de la Santé espère vacciner 6 millions de personnes d'ici la fin du mois.
La brigade RTL signée Sophie Orange.
Il est 8h04, le combat n'est pas terminé pour Nicolas Sarkozy.
Condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, l'ancien président, qui est le premier sous la 5e à écoper d'une telle peine, va faire appel. C'est un nouveau coup de tonnerre à droite après l'affaire Fillon, la droite qui accuse le parquet national financier de faire de la politique. Écoutez la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer.
La plupart des pénalistes est parmi les plus éminents. Ont été choqués que l'affaire Fillon, comme l'affaire Sarkozy, celle des écoutes téléphoniques, soit confiée au PNF. Ils ont été choqués sur le fond et sur la forme. Et aujourd'hui, effectivement, la démocratie ne va plus fonctionner de la même façon. Et comme par hasard, comme quoi le hasard de l'instruction est quand même très curieux, eh bien, ça tombe sur deux hommes de droite. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très malséant. En tout cas, moi, ça me dit. Très mal à l'aise.
Valérie Boyer avec Vincent Derosier.
Le chef du parquet national financier, Jean-François Bonnaire, sera notre invité à 8h20 sur RTL.
Le procès va durer 6 semaines. Procès en appel aujourd'hui de 13 jeunes accusés d'avoir brûlé des policiers en 2016 à Viry-Châtillon. Ils avaient jeté des cocktails Molotov dans leur voiture. L'un des fonctionnaires avait passé plusieurs semaines dans le coma. Des peines de 10 à 20 ans de prison avaient été prononcées en première instance.
Dans un instant, l'Église et ses fantômes pédophiles. À tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. L'Église confrontée à sa part d'ombre.
Elle fait son examen de conscience depuis l'affaire Barbarin. Une commission est chargée de recenser les victimes d'abus sexuels. Un appel à témoins a été lancé en juin 2019. Le résultat sera connu tout à l'heure. Déjà plus de 6500 témoignages collectés. Les archives aussi sont passées au peigne fin. On va le voir dans un instant. Mais d'abord, le témoignage de Véronique, abusée par un prêtre lorsqu'elle était adolescente. Il faut préparer les esprits, dit-elle, au choc des révélations à venir. On attend un rapport pour octobre.
Moi, je crois qu'il faut qu'on prépare les gens, préparer les catholiques, ceux qui aiment leur Église, à recevoir ce rapport. Il faut accompagner toutes ces révélations parce que ça sera difficile, parce que sinon, c'est une bombe, ça va déstabiliser des personnes et ça va peut-être se retourner contre les victimes qui ont osé briser ce silence. On pourrait penser qu'on en parle plus. Alors oui, on en parle plus. Mais il y a quand même encore beaucoup de résistance. Non seulement de la résistance passive, mais des gens qui disent bah, « on en a marre d'entendre parler de ça ». Ça réagit fortement dans un déni. Donc, c'est pas gagné. Hein.
Et c'est vous qui avez recueilli ce témoignage, Marie Guerrier. Bonjour.
Bonjour.
On le disait, les archives de l'Église, vieilles parfois de 70 ans, sont en ce moment passées au crible par des historiens qui vont visiblement de surprise en surprise.
Oui, parce qu'en fait, leur crainte, c'était de ne pas trouver grand-chose dans les archives. Et puis, c'est tout l'inverse. L'Église a gardé des documents en interne, parfois juste un feuillet ou deux, parfois des rapports complets avec des lettres, des signalements de famille. Évidemment, pas de dossier estampillé prêtre problématique. Dans les documents les plus anciens des années 50 à 70, on employait bien des circonvolutions pour parler de ces choses-là. On tombe même sur des formules latines, tout un langage que les historiens-chercheurs ont appris à décrypter. Il faut attendre les années 2000 pour voir clairement apparaître le mot pédophilie. Les chercheurs de la commission indépendante d'enquête sont partis d'un premier inventaire remonté des diocèses, un questionnaire auquel avaient répondu les évêques. Et ce premier inventaire listait 1500 noms de prêtres abuseurs depuis l'après-guerre. Les recherches dans les archives sont parties de ces noms. Et c'est comme tiré sur le fil d'une pelote, de recoupement en recoupement, notamment avec les témoignages que la commission d'enquête indépendante, la CIAZ, a collecté. 20 à 40% de dossiers supplémentaires ont été découverts dans certains diocèses ou certaines congrégations religieuses. Les historiens vont analyser faits, dates, lieux, profils des abuseurs, circonstances, contexte social et culturel pour chaque fait, et puis comment l'Église a géré toutes ces situations. Ils doivent remettre à la CIAZ d'ici un mois une première version de leur travail qui devrait faire au moins 300 pages.
Merci beaucoup pour ces explications, Marie Guerrier. Au Nigeria, près de 300 adolescentes enlevées vendredi dernier de leur pensionnat, elles ont été libérées ce matin. Elles se trouvent en ce moment dans les locaux du gouvernement de l'État de Zamfara, dans le nord du pays. C'est la quatrième attaque d'école en moins de 3 mois dans la région. Danone, secoué par la crise économique, les résultats du groupe ne sont pas bons. Son PDG, Emmanuel Faber, est exfiltré. Il a perdu la confiance des actionnaires. Il gardera le titre de président, mais l'exécutif sera confié à quelqu'un d'autre. Danone prévoit la suppression de 2000 postes chez ses cadres.
8h10, c'était il y a 30 ans sur RTL.
Serge Gainsbourg est mort. Le corps du chanteur a été découvert cette nuit dans une pièce de son appartement du 7e arrondissement à Paris.
Tu t'appelles comment ?
Mélodie comment ?
Mélodie Nelson.
Il y a d'abord eu le choc, la tristesse, et puis on a redécouvert l'artiste et ses œuvres immortelles 30 ans après. Pour sa fille Charlotte, le travail de Serge Gainsbourg est toujours d'actualité.
Vivant ? Oui, j'espère le plus longtemps possible. En fait, je me suis jamais posé la question de me dire est-ce qu'un jour est... son travail pourrait disparaître. Pour moi, ça fait tellement partie de l'inspiration de tous les artistes que je croise, que j'y vois pas de fin. Donc oui, ça fait 30 ans. J'espère qu'on pourra ouvrir sa maison enfin, soit cette année, soit l'année prochaine. On a pris du retard. Mais bon, c'est pas son œuvre, c'est... là où il a créé.
La maison du 5 bis rue de Verneuil à Paris, un fantasme pour tous les fans. C'était Charlotte Gainsbourg avec Stéphane Boutsock.
Et nous reviendrons largement dans Laissez-vous tenter à 9h sur les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg. On termine ce journal avec l'histoire du jour.
Le geste fou d'une automobiliste dans le Maine-et-Loire sur l'autoroute A11. Arrivée au péage, elle a fait demi-tour et roulé pendant plus de 20 km à contresens. Il a fallu couper la circulation et fermer un tunnel pour éviter la catastrophe. En garde à vue, elle a simplement expliqué qu'elle ne voulait pas payer le péage.
Je crois qu'au final, elle risque de payer beaucoup plus cher.
Bon, enfin, écoutez, tout cela est parfaitement logique. Merci beaucoup, Jérôme Florin. Dans un instant, nous allons retrouver Michel Simès. Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Socrate disait « connais-toi toi-même » et vous allez nous dire dans un instant « connais-toi toi-même tes antécédents familiaux ».
Absolument.
À tout de suite.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Alors ce matin, vous vous adressez à celles et ceux qui ont un parent, un frère, une sœur qui a fait un infarctus précoce, qui souffre de diabète ou qui a dû affronter un cancer. Dites-moi, ça doit faire du monde.
Oui, je leur dis qu'au nom de la génétique, ils peuvent être aussi concernés. Alors attention, je dis ils peuvent être et non pas qu'ils vont être concernés. J'ai souvent eu l'occasion de vous le dire, nous sommes tous inégaux devant la maladie. Et c'est vrai que dans certaines familles, on cumule parfois les accidents de vie. C'est ainsi, on parle de fatalité des gènes. Mais si la génétique ne dépend pas de nous. Notre mode de vie, lui, ne dépend que de nous et il peut nous être d'un grand secours.
Si je vous comprends bien, il faut être encore plus vertueux d'une certaine façon, c'est-à-dire manger sainement, faire du sport dès lors que l'on appartient à une famille où rôde la maladie, c'est ça ?
C'est exactement ça. Prenez le cancer. Son apparition est souvent favorisée par l'altération de certains gènes. Il présente des anomalies qui sont transmises de façon héréditaire. Le risque familial s'en trouve accru. C'est pour ça que s'il y a des antécédents dans votre famille, vous devez en tenir compte. Dans le cas du cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes, un cancer qui touche une femme sur 10, eh bien vous devez demander à effectuer des mammographies dès l'âge de 40 ans et non pas 50, comme le prévoit le dépistage officiel. Parallèlement, vous devez apprendre à palper vos seins pour déceler une éventuelle tumeur plus tôt que ne le font les femmes qui, a priori, bénéficient d'un terrain génétique favorable.
Alors, le cancer de la prostate, hein, dont on sait qu'il se soigne bien s'il est pris à temps, a-t-il lui aussi une part d'hérédité ?
Oui, selon la Fondation pour la recherche sur le cancer, 5 à 10% des cancers de la prostate sont d'origine héréditaire. Donc là encore, le fameux toucher rectal nécessaire au dépistage ainsi que le dosage du PSA par une prise de sang. Il faut s'y résoudre plus tôt que prévu si certains membres de la famille ont été touchés. De même, si un parent a été atteint au poumon ou à la vessie, évitez de fumer. Vous seriez doublement exposé.
Outre les cancers, Michel, quelles sont les autres grandes pathologies pour lesquelles il vaut mieux être informé d'éventuels antécédents familiaux ?
Alors, les infarctus qui surviennent avant 50 ans, dès lors qu'un proche a été touché, il faut s'efforcer de ne pas tenter le diable. Donc, on surveille son poids, sa tension, on surveille son cholestérol et on le fait chaque année à partir de 40 ans. Par ailleurs, on s'éloigne de l'alcool et on fait du sport en veillant à toujours prendre l'avis de son médecin traitant. Et puis, il y a aussi le diabète. Si c'est de famille, comme on dit, vous devez en informer votre médecin si vous êtes enceinte, mesdames, et surveiller votre glycémie tous les ans, en particulier si vous prenez la pilule. Faire doser sa glycémie, c'est évidemment indiqué pour les hommes aussi, et bien sûr, hommes ou femmes, dès lors que le diabète a déjà sévi parmi les proches, on fait analyser ses urines. Tout cela peut vous sembler un peu contraignant, mais ne fait qu'augmenter vos chances de tenir la maladie à distance au cas où elle vous aurait dans le collimateur, ce qui, je le répète, n'est pas non plus gravé dans le marbre.
Tout cela était très important à entendre. Merci infiniment Michel Simès. À demain matin.
À demain.
Dans un instant, Jean-François Bonnaire, le chef du Parquet National Financier, est notre invité. Il a réservé sa première prise de parole à RTL, à vous, nos auditeurs, et va réagir pour la première fois à la condamnation à 3 ans de prison, dont un enferme contre l'ancien président Nicolas Sarkozy. À tout de suite.
RTL Matin.
Avec
Yves Calvi.
RTL Matin.
Il est 8h19. Bonjour Jean-François Bonnaire.
Bonjour Monsieur Calvi.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes notre procureur national financier. Au lendemain de la condamnation à 3 ans de prison, dont un enferme de l'ancien président Nicolas Sarkozy, en préparant cet entretien, je me suis dit, mais finalement, on se demande si on ne vous reproche pas d'être indépendant.
Oui, je crois que le Parquet national financier, dans la conduite de cette affaire, a montré que le parquet, les magistrats du parquet, sont en situation d'indépendance et en capacité d'être indépendants. Et je dois dire que quand on voit les mois que le Parquet national financier a dû traverser pour faire aboutir un premier jugement dans cette affaire, nous avons dû mobiliser toutes nos capacités pour effectivement être indépendants et être à la hauteur de la tâche qui nous attendait.
Et en même temps, vous savez que les réactions, en tout cas un certain nombre d'entre elles, sont parfois violentes, voire indignées. Je cite Christian Jacob, un jugement d'une sévérité absolument disproportionnée.
Écoutez, je laisse l'appréciation et l'adjectif qui a été utilisé. Ce que je retiens, c'est qu'on nous a, en parallèle également de cette disproportion, accusé de vacuité. On nous a dit « ce dossier est vide ». Les réquisitions du parquet sont confinées à l'inanité, sont elles-mêmes vides. Je rappellerai que le parquet, à l'audience, a requis pendant 5 heures. 5 heures de démonstration qui se sont soldées aujourd'hui par un jugement que j'ai là avec moi, que j'ai lu cette nuit et qui fait 254 pages.
Je vous cite Florent Bachelier, qui est premier questeur à l'Assemblée nationale. Il était invité d'Alba Ventura ce matin. Il nous a dit, il est lui-même avocat. Une conversation entre un client et son avocat peut donc être utilisée contre lui.
Mais écoutez, c'est une question qui a beaucoup agité et qui continue d'agiter les juristes.
Ça ne vous choque pas ?
C'est une situation qui a été validée par la plus haute instance judiciaire française, la Cour de cassation, et au-delà, par la plus haute instance judiciaire européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. Mmh. À partir du moment où on nous donne le feu vert au plan de la jurisprudence, eh bien, il n'y avait aucune raison que le parquet national financier s'en prive.
Donc la réponse à ma question, c'est « ça ne vous choque pas ».
Ça ne me choque pas dès lors que la loi le permet. Si demain, et ça sera peut-être le cas, la loi est changée et nous dit, par exemple, pour les fadettes, plus question que vous examiniez les fadettes sans le feu vert d'un juge, vous, monsieur le procureur, eh bien, à ce moment-là, nous respecterons cette nouvelle règle et nous irons voir un juge pour obtenir l'autorisation.
On peut dire qu'au minimum, il eût été correct de prévenir le bâtonnier, ce qui est un usage.
Écoutez, il y a des règles qui sont prévues, vous avez tout à fait raison, il y a des règles qui sont prévues, le PNF s'est parfaitement conformé à ces règles. Ça a du reste été rappelé par l'inspection, puisque la procédure à laquelle vous faites référence, qui maintenant a été considéré comme une page tournée par le tribunal correctionnel, mais pour autant, je réponds à votre question, cette procédure a été scrutée de façon très attentive par l'inspection qui nous a dit le PNF n'est pas sorti des clous.
Vous savez que vos méthodes sont contestées, nos confrères du Point titrent cette semaine les coups tordus d'une justice très politique. Vous contestez cette analyse ?
Pour moi, la justice politique, ça renvoie à d'autres pays, à d'autres sphères géographiques. Le PNF ne fait pas de politique. Le PNF ne connaît pas non plus d'infractions politiques. Le PNF connaît des infractions économiques et financières qui ont parfois l'apparence, et c'est là que revient l'adjectif politique, par la qualité politique des personnalités que ces procédures peuvent mettre en scène. Mais pour le reste, nous ne faisons pas de politique et nous ne cherchons pas à entrer dans un débat quelconque. Ce n'est pas notre sujet.
Je reviens sur les méthodes. En fait, vous avez utilisé des méthodes qui parfois n'ont servi à rien, puisque la fameuse taupe qui aurait prévenu Nicolas Sarkozy n'a jamais été identifiée et que surtout vous n'avez jamais prévenu le bâtonnier. J'insiste sur ce point-là et je rappelle qu'il s'agit d'un usage, à moins que vous ayez eu honte de ces méthodes.
Non. Moi, je vous dirais aujourd'hui, la seule réponse que je puisse vous faire, c'est que cette affaire, cette enquête préliminaire, il en a été longuement question au cours du procès oui. qui s'est terminé hier, ouais. en première instance. Le tribunal a été saisi des questions que vous posez là par la défense. Et ils avaient raison peut-être de le faire. Je me mets à leur place un instant, c'est logique. Le tribunal a répondu. Parce que ces arguments ont été utilisés en ce qu'on appelle comme exception de nullité. Pour essayer de faire tomber toute la procédure.
Absolument.
Et le tribunal a dit non, là-dessus il n'y a plus rien à dire, c'est une page désormais qui est tournée, en tout cas en première instance, puisque le tribunal a décidé d'aborder le fond et non pas de rester tout le temps dans cette affaire périphérique.
Monsieur le procureur national financier, on va dire les choses simplement. Faut-il voir dans ce verdict, on va dire, une dimension politique ? Alors là, je l'utilise de façon non polémique et même symbolique, qui va au-delà d'un rappel à l'ordre.
Là encore, nous ne sommes pas dans une décision politique. Nous avons appliqué le code pénal et le code de procédure pénale qui prévoient des pénalités au regard d'infractions qui sont poursuivies. Nous sommes en présence de faits qualifiés de corruption, de trafic d'influence, de violation de secret professionnel et de recel. Et le tribunal nous dit ces infractions sont constituées. Les faits qui ont été commis sont particulièrement graves à raison de la personnalité des prévenus, et dès lors, eh bien, les peines prononcées, c'est le tribunal aujourd'hui qui l'a décidé. Je rappelle que le jugement d'hier, ce n'est pas le PNF qui l'a écrit.
Nous sommes
d'accord. Il est signé par 3 magistrats du siège.
L'avocate de Nicolas Sarkozy, néanmoins, continue de faire remarquer que vous n'avez aucune preuve de l'infraction.
Ça, c'est l'appréciation de la défense, c'est le terme de vacuité qui a déjà été utilisé longuement lors du procès auquel j'ai assisté. Moi, je constate aujourd'hui qu'en regard de cette absence de preuves, sur 254 pages, le tribunal prend soin de décortiquer les éléments de preuve qui apparaissent dans le dossier.
Vous nous dites que la promesse caractérise l'infraction, avec des on-dit « je l'aiderai, je le ferai monter » selon les propos rapportés de Nicolas Sarkozy concernant notamment Gilbert Azibert.
Les termes se trouvent dans les écoutes elles-mêmes, encore une fois, qui ont été faites dans le cadre d'une instruction menée par un juge d'instruction. Ces termes apparaissent, noir sur blanc, ils ont été retranscrits. Voilà, je dirais, les mots parlent pour eux-mêmes.
Alors, je vous pose la question autrement. Pouvez-vous contester qu'il y a eu un acharnement contre notre ancien président de la République, l'homme qui parlait de vos congénères en parlant de petits pois? Vous avez compris le sous-entendu de ma question. Il y a un passif, en fait, entre Nicolas Sarkozy et une partie de la justice française.
Alors ça, pour moi, ce n'est pas le sujet. Et c'est ce que j'ai entendu lui dire, notamment à M. Sarkozy, lorsque je me suis levé pour ouvrir les réquisitions au mois de décembre. Et je lui ai dit, les yeux dans les yeux, que mon parquet, le parquet que j'ai l'honneur de représenter et de diriger, n'entendait pas mener une fronde contre lui et qu'on n'était pas dans une situation de vengeance. Mais comprenez bien, si des infractions sont constituées, c'était la thèse du parquet, c'est aujourd'hui la thèse du tribunal. Eh bien, nous ne pouvions pas faire autrement que de poursuivre et de requérir la condamnation. C'est ce que je fais pour chaque citoyen. Lorsqu'il y a quelques années, j'étais en tribunal en région, au tribunal de Strasbourg, lorsque je requérais contre des voleurs à la roulotte, je le faisais exactement de la même manière, de façon proportionnée aux faits commis.
Vous nous dites que Nicolas Sarkozy a été jugé comme n'importe quel Français.
Je l'affirme haut et fort.
Nous confirmez-vous qu'une enquête administrative à la demande du garde des Sceaux est toujours en cours ?
Oui, c'est un fait qui est public. Ça concerne de trois personnalités qui, pour l'une, a exercé à la tête du parquet national financier et deux autres qui sont toujours en fonction chez nous. Et
ça avance ? Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer, d'après vous ?
Écoutez, je crois savoir que le Premier ministre doit rendre prochainement un arbitrage. Mmh. C'est lui qui est destinataire de ce rapport. Moi, je n'en suis pas destinataire et je n'ai aucune information.
Le ministre de la Justice ne cache pas son scepticisme, on va dire, sur le parquet national financier. Est-ce que cette situation est difficile à vivre pour vous et ceux qui travaillent avec vous ?
Certainement, mais ce scepticisme, quelque part, est injuste. Le parquet national financier, c'est quoi ? Ce sont quelques dizaines d'affaires sur 605 affaires en cours, quelques dizaines d'affaires qui concernent des personnalités politiques. Le parquet national financier, aujourd'hui, il fête très exactement ce matin, c'est un jour anniversaire, c'est 7 années d'existence. Eh bien, en 7 ans, le PNF a ramené aux caisses de l'État la rondelette somme de 10 milliards d'euros. Dans des affaires qui, souvent, ne font pas de bruit, ou beaucoup moins de bruit.
On en est à 10 milliards ? Parce que j'étais resté à 7 en ce qui me concerne.
Non, nous sommes aujourd'hui à 10 milliards.
Vous nous dites, on ramène de l'argent ?
Nous ramenons de l'argent par le biais des confiscations, par le biais des amendes. C'est le travail de la justice.
Jean-François Bonner, moi je viens d'être frappé par un autre chiffre que vous venez de citer. Plus généralement, des enquêtes peuvent-elles être menées sereinement quand on est 17 magistrats et qu'on a plus de 600 dossiers sur les bras, dont celui d'un ancien président de la République ?
C'est très juste. Ça suppose une mobilisation de tous les instants. Ça suppose aussi une capacité à se concentrer et à rechercher la sérénité alors que ce n'est pas justement la sérénité qui nous entoure dans notre travail au quotidien. C'est effectivement une question d'effectifs, vous le soulignez parfaitement. Oui. L'Assemblée nationale a estimé encore récemment que les effectifs du PNF devraient être revus à la hausse. Mais je rajoute dans cette quête d'effectifs également les services enquêteurs. Lorsqu'on sait que les services de police et de gendarmerie peinent à recruter des enquêteurs spécialisés dans le domaine économique et financier, eh bien, si nos affaires durent parfois plusieurs années, c'est aussi parce que nous sommes tributaires des moyens insuffisants de nos services enquêteurs.
Je cite à nouveau Florent Bachelier, premier questeur de l'Assemblée nationale de La République En Marche, qui était l'invité d'Alba Ventura tout à l'heure. Concernant Nicolas Sarkozy, il a commencé son intervention en disant qu'il ne voulait pas commenter une décision de justice, ce que l'on dit toujours dans Paris Circonstance, mais il dit Il est en tout cas innocent jusqu'à preuve du contraire. En l'occurrence, son jugement en appel, puisque appel il y a. Vous partagez évidemment la même analyse.
Bien sûr, l'appel est interjeté. C'est un jugement aujourd'hui qui n'est pas définitif. On est bien d'accord. Mais dire d'un revers de main que aujourd'hui ce jugement n'existe pas, je l'ai entendu dans la bouche de certains commentateurs ou même de certains défenseurs, là je m'inscris en faux. Ce jugement que j'ai là avec moi, il est sur la table. Il ne sera éventuellement revu que lorsque la cour d'appel se prononcera, c'est-à-dire dans quelques mois. Dans l'intervalle et dans l'intermédiaire. D'ici là, ce jugement existe, il est sur la table.
Vous venez de nous suggérer que Nicolas Sarkozy risquait plus gros, si je puis dire, en appel ?
La cour d'appel, une fois qu'elle statuera, peut très bien revoir les pénalités à la hausse. Nous n'étions pas dans nos réquisitions au maximum. Le tribunal est juste derrière nous avec l'appréciation des peines. La cour d'appel peut, si elle décide effectivement que les infractions sont constituées, prononcer une peine soit plus légère, soit également plus forte. Il y a eu quand même quelques exemples.
Par exemple, de la prison ferme.
Je rappelle que le tribunal correctionnel, hier, a décidé une partie ferme de l'emprisonnement.
Une toute dernière question, peut-être, à l'intention des Français qui vous écoutent et qui ont, pour une raison ou pour une autre, soutenu Nicolas Sarkozy, élu président de la République, et qui se posent des questions sur l'indépendance de notre justice. Qu'avez-vous envie de leur dire ce matin ? Très simplement.
Tout simplement, nous faisons notre travail en âme et conscience au regard des règles que nous fixe la loi. Je peux même vous faire une petite confidence. Dans le choix des réquisitions que nous avions faites au mois de décembre, nous aurions pu, la loi le permettait, nous aurions pu requérir une interdiction des droits civiques de se présenter aux élections pour Nicolas Sarkozy. Le texte de loi était là. Eh bien, nous ne l'avons pas fait à dessein. À la fois pour ne pas être taxé de justice politique, mais aussi pour laisser à nos concitoyens, à l'électeur peut-être, potentiel, je ne sais pas si M. Sarkozy se présentera un jour, mais de laisser finalement à nos concitoyens la décision finale qui consiste à tirer les conséquences, oui ou non, liberté pour chacun de l'apprécier, par rapport au fait que nous nous avons constaté et que nous avons fait condamner.
En âme et conscience, Jean-François Bonner, vous savez très bien que l'ancien président de la République ne peut plus se présenter à aucune élection dans la situation qui est la sienne aujourd'hui.
Ça, c'est une.
Vous n'en êtes pas responsable.
C'est une appréciation qui lui revient. Moi, je n'ai pas à entrer dans ce débat. Ce n'est pas mon sujet.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la parole ce matin en direct sur RTL, Jean-François Bonner. Je rappelle que vous êtes le procureur national financier de notre pays. Bonne journée à vous.
Merci, Monsieur Calvi. Bonne journée également.
Bon travail et vous êtes le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, nous faisons un point sur notre météo avec Louis Baudin.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Steven Bellery. Serge Gainsbourg est mort il y a 30 ans, mais qui était-il vraiment ? Portrait intime avec les confidences de Brigitte Bardot, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Dany et Eddie Mitchell, à 9h dans Laissez-vous tenter.
Pourvu que ça dure, je touche du bois.
8h35, après le parquet, la météo. Elle est indépendante.
Elle est indépendante,
de la météo,
a priori.
Oui,
mais bon, restons humbles aussi, hein, parce que faire de bonnes prévisions, c'est compliqué. En tout cas, pour aujourd'hui, on a dit du soleil dans l'est, quelques nuages dans l'ouest, des nuages élevés sans grande conséquence. Et toujours une certaine douceur l'après-midi, parce que c'est froid le matin. 14 à 17 degrés au moins dans le nord, 17 à 18 dans le sud. Demain, c'est quasiment la même chose, avec encore une journée très douce, avec encore du soleil. Et puis en fin de journée, arriveront les premiers nuages dans le nord-ouest, signe d'une dégradation qui va nous intéresser pour la nuit de mercredi à jeudi et surtout jeudi. Avant ça, demain, on aura encore des températures très élevées, en tout cas au-dessus des moyennes de saison, oui. Autour de 15 degrés au moins dans la moitié nord, pas loin de 17 à 18 degrés dans le sud. Donc jeudi, changement de temps, avec là une perturbation qui va traverser toute la France du nord-ouest vers l'est avec un peu d'activité, pas forcément beaucoup de pluie, mais des nuages, un peu d'humidité quand même. Le sud sera encore épargné. Et puis derrière cette perturbation, dans la nuit jeudi à vendredi et vendredi, on va connaître un net refroidissement. Les températures vont de nouveau repartir à la baisse. Perturbation qui traînera dans le sud vendredi avec de la pluie ou de la neige de nouveau sur les Alpes, le Massif central, peut-être un peu sur les Pyrénées, sauf près de la Méditerranée qui restera épargnée. Et puis pour le week-end prochain, eh bien on prévoit du temps plutôt sec, plutôt ensoleillé, mais avec des températures plus basses, de nouveau dégelé le matin, des températures à peine de saison l'après-midi, moins de 10 degrés parfois dans la moitié nord, 15 degrés dans le sud, et puis peut-être qu'il y a encore quelques flocons du côté des Alpes.
En fait, c'est encore l'hiver, pour dire les choses simplement.
Oui, c'est encore l'hiver.
Voilà, donc quand le soleil est là, c'est plaisant, mais le reste du temps, il fait frais.
Exactement, mais on rentre dans le mois de mars, vous savez, qui est le mois un peu intermédiaire, avec encore des giboulées, avec encore de la neige, et puis parfois des petits moments de douceur. Ben, c'est exactement ce que l'on va connaître au cours de ces prochains
mois. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Louis Bodin. Dans un instant, on va retrouver... vous êtes comme ça ? Ah oui, avec un drôle de métier, vous allez voir.
RTL, vous êtes comme ça.
Et vous êtes comme ça vous emmène ce matin à la découverte d'un métier inconnu, celui de pédicure bovin. C'est un secteur en tension, il y a beaucoup plus de travail que de candidats. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Frédéric, vous avez suivi il y a quelques jours Nicolas Genton. Il est pédicure bovin en Normandie et on peut aisément dire que ses journées sont bien remplies.
Oh que oui, elle commence très tôt chez lui, dans sa bergerie située à Clessy dans le Calvados.
Donc la ferme le matin et puis après on va tailler des pattes de vache, donc c'est parti.
Et ça, c'est une deuxième activité.
Eh ben oui, deuxième activité, démarrée il y a 7 ans. Par hasard, j'ai connu quelqu'un qui cherchait à arrêter.
Alors là, vous vous déplacez en camion de
ferme. Là, je me déplace avec mon camion et ma cage, et puis je vais de ferme en ferme, selon les besoins. Donc là, je pars à Durcé, il y a une vingtaine de vaches qui m'attendent, qui boitent. Donc on va essayer de soigner tout ça.
Une fois sur place, Nicolas Genton met sa cage de parage, qu'il descend de sa remorque. La cage de parage, c'est une cage très sophistiquée, où les vaches entrent les unes après les autres. À l'intérieur, l'animal ne peut plus bouger, ce qui permet aux pédicures bovins de travailler en toute sécurité.
Allez, mes mères. On est pas mal, là, non? Puis elle aussi.
Donc là, vous faites quoi, exactement?
Donc là, je remets les onglons à plat. Je commence par tailler, déjà. Et après, on va lui soigner ce pourquoi elle a mal. Donc là, elle a une dermatite entre les deux onglons. Donc là, on va lui faire un pansement avec un produit exprès. Avec du coton, que l'éleveur enlève dans 3 jours. Une dermatite comme ça, bah ça lui fait perdre entre 2 et 4 litres de lait par jour. Puis ça l'affaiblit, ça la fait maigrir. Donc ça, la dermatite, c'est un fléau, on en voit dans quasiment tous les éleveurs. Quasiment.
Et si je comprends bien, Frédéric, pédicure bovin, c'est un métier essentiel au bien-être animal.
Eh bien oui, parce qu'une vache qui boite mange moins, donc donne moins de lait, donc cela entraîne des pertes de revenus pour l'éleveur. Voilà pourquoi Cyril Sauk, qui a 85 vaches dans son exploitation, a fait appel à Nicolas Genton.
On préférait ne pas avoir besoin de Nicolas, qui vienne seulement pour boire un coup, mais là, cette dermatite, c'est un champignon qui est très contagieux. Souvent, quand on l'a, eh bien, on s'en défait pas, quoi. Alors, les pansements, au bout de 3 jours, quand on les enlève, elles se portent mieux, oui.
Et ça redonne le sourire à l'éleveur.
Ouais, quand une bête va mieux, bah, c'est mieux pour tout le monde.
Combien de vaches ce matin, là ?
17, jusqu'à la prochaine fois. Donc, avis aux amateurs, parce qu'on manque de monde sur le terrain, et ça devient problématique. Nous, on a trop de boulot, puis les éleveurs seraient servis plus vite si on était plus nombreux.
Et ça tient à quoi ?
Un métier méconnu, peut-être. Puis après, bah, faut aimer les vaches, forcément, puis faut aimer le boulot, quoi. Faut être courageux, quoi. Comme on dit, faut se tirer les doigts du cul. Mais moi, j'ai connu ça par hasard. Hein. Mais on est prêt à former, toujours. Ça, c'est sûr. Cyril, à bientôt. Tu surveilles ça.
Oui.
Bien, tout de suite, tu rappelles. Bon courage. Voilà. Salut.
Et la journée se poursuit pour Nicolas Genton. Cela peut aller jusqu'à 10 rendez-vous et quelques centaines de kilomètres chaque jour pour aller curer les vaches.
Merci beaucoup Frédéric Veil. On retrouve tous les épisodes de Vous êtes comme ça en podcast sur notre site internet et sur notre application mobile.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40. Ce matin, Isabelle Choquet, vous nous faites un petit coup de fatigue.
Oui, mais c'est pas moi qui suis fatiguée, Yves, quoique. Non, ce qui m'intéresse, en fait, ce matin, ce sont nos ministres. On en a vu hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Le teint cireux, la voix éteinte, les valises sous les yeux, je ne vais pas donner de nom. Le magazine Elle a mené l'enquête pour savoir comment ils gèrent leur longue journée et leur petite nuit. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux face à la fatigue, mais les effets de la fatigue, eux, sont les mêmes pour tous. Impossible de tenir avec des nuits de moins de 5 heures. Ça, c'est ce que dit la spécialiste du sommeil, Sylvie Royan-Parola. Si on dort moins de 2 heures que son temps de sommeil habituel, dit-elle, c'est comme si on avait 1 gramme d'alcool dans le sang. On a l'impression d'être performant et intelligent, et en fait pas du tout. Un message qui a fait son chemin dans l'enthousiasme des débuts. Emmanuel Macron n'hésitait pas à empiéter sur ses nuits pour finir sa journée, au risque d'épuiser ses ministres et ses collaborateurs.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment toute la nuit.
Je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi.
Aujourd'hui, tout le monde a levé le pied. Il y a une sorte d'obligation morale à dormir plus, dit un proche du président. On attend de nous de la lucidité et de la disponibilité intellectuelle et physique. En vieux routard de la politique, François Hollande l'avait compris dès le début, l'ancien président faisait en sorte de se coucher vers 23h30 minuit, quitte à prendre parfois des médicaments pour faciliter le sommeil. Le réveil sonnait vers 5 ou 6 heures du matin. Dans une vie de politique, le moindre roupillon est bon à prendre. Jean-Yves Le Drian, qui est ministre depuis plus de 8 ans, sait qu'à tout moment, il peut y avoir une mauvaise nouvelle porteuse de nuit blanche. Alors il décline autant que possible les invitations du soir, il évite les dîners chargés et quand il se déplace en avion, après le déjeuner, il n'est pas rare de le voir enfiler une polaire kaki un peu élimée pour piquer un petit somme. Sauf que les petits sommes, parfois, ce n'est pas le moment. Alors, pour éviter de piquer du nez sur les dossiers, il y a ceux qui se mordillent les doigts en plein conseil des ministres, ceux qui prennent des notes. Fatigué, il a des raisons de l'être, Olivier Véran. Pour tenir, le ministre de la Santé carbure au café et au Coca-Zéro. Disons-le tout net, ça ne suffit pas. Bien sûr, comme médecin, il a connu les nuits de garde, mais justement, il connaît aussi les dangers du manque de sommeil. Faut que je puisse réfléchir et prendre les bonnes décisions dans la journée, dit-il. Pour compenser les nuits trop courtes, le ministre s'accorde une micro-sieste de 20 minutes une fois par semaine et des séances de méditation sur l'appli Petit Bambou. Il continue aussi à faire du sport, une heure de boxe par semaine, comme Emmanuel Macron, le président qui aime à se présenter en oiseau de nuit.
Je dors peu, mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu.
Ses ministres, ses collaborateurs ont tous raconté ses SMS qu'il envoie parfois jusqu'à 3 heures du matin. Jupiter, maître des horloges. Bon, ce que la légende ne dit pas, c'est que Jupiter n'est pas du matin, apparemment. Il commence rarement ses rendez-vous avant 9h. C'est ce que dit un ancien collaborateur anonyme. Allez, c'est le jeu, hein. Le président n'est pas le premier à raconter l'histoire du chef qui ne dort jamais. Napoléon l'a fait, Margaret Thatcher, Donald Trump. Et aux grandes heures de l'URSS, Staline laissait une pièce du Kremlin allumée en permanence pour alimenter le récit du petit père qui sacrifie ses nuits. Une histoire à dormir debout, forcément. Grosse fatigue, article à lire dans Elle, cette semaine.
C'est passionnant et amusant. Merci beaucoup Isabelle Choquet. On se retrouve demain matin.
Avec plaisir, à demain.
Et dans un instant, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard et toute son équipe au grand complet.
9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 8h46. Oh, grande félicité. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves Calvi.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il écope d'une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors on parle de moi ?
Oui.
Hein ? Vous êtes formidables, vous autres les journalistes. Vous êtes comme les juges, hein ? Vous ne pouvez pas vous passer de moi, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. J'imagine que cette condamnation est dure à avaler.
Bon, vous savez, j'étais content hier d'aller au tribunal.
Ah bon ?
Mm-hmm. Oui, parce qu'en ce moment, on pédale dans la marmelade de confinement avec des morceaux de couvre-feu dedans.
Oui.
Alors quand on a une occasion de sortir de chez soi, ben, on est content. Voilà. Et puis les théâtres sont fermés, ça m'a fait du bien d'aller voir des comiques sur scène.
Des comiques ?
Oui, les juges.
Ah, très bien.
Toujours le mot pour rire. Et puis franchement, rien que le nom, l'affaire Paul Bismuth, hein, on dirait une pièce de boulevard de Grédier Barrière avec Jean Poiret dans le rôle-titre et Maria Pacôme dans le suite de Madame Bismuth. Hein. Paul Bismuth, enfin, c'est pas sérieux. Mmh. Est-ce que vous croyez sincèrement que j'aurais choisi un pseudo aussi tard ? Quoi, pas Jean-Pierre Trucmuche pendant qu'on est.
Bon, cette peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, reste lourde, très lourde.
Oui, mais la juge, elle a dit comme quoi que je pourrais faire ma peine à la maison avec un joli bracelet électronique à la cheville. J'ai déjà choisi mon modèle chez Rolex. Hein.
Ah, voilà.
Parce que comme il a dit mon ami Balkany, si t'as pas ton bracelet électronique à plus de 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Hein.
Vous prenez ça avec beaucoup de philosophie. Hein.
Mais oui, écoutez, rester une année chez soi sans pouvoir sortir, c'est ce que tous les Français y vivent depuis un an. Hein. Puis vous savez quoi ? Ben, je vais vous le dire.
Oui.
Au rythme où va la vaccination, vous serez encore chez vous que je serai déjà sorti de chez moi. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille préparer mon prochain procès à l'affaire Big Malian.
Et oui, c'est vrai.
Comme quoi que j'aurais fait du financement illégal avec des morceaux de fausses factures dedans. Et puis j'ai 2-3 forfaits téléphoniques à résilier, hein. On sait jamais.
Voilà. Le variant anglais se propage dans plusieurs zones du territoire, rendant la situation sanitaire de plus en plus préoccupante. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour madame. En effet, il faut agir comme nous l'avons fait à Nice, en confinant la ville le week-end.
Et vous pensez que ce sera suffisant ?
Peut-être pas. C'est pourquoi j'envisage aussi à Nice de rebaptiser la promenade des Anglais la promenade des variants anglais. Ah. Cela incitera peut-être les touristes à ne pas venir.
Alors avec Nice et Dunkerque, vous semblez privilégier l'approche territorialisée au reconfinement général.
C'est en tout cas ce que souhaite le président. Si ça ne tenait qu'à moi, la France serait déjà confinée depuis 3 semaines. Et je mettrais 1 heure de colle et je priverais de dessert tous les contrevenants. Mais le président trouve ça trop infantilisant. Il m'a même surnommé Monsieur Bricolage.
Monsieur Bricolage ? Mais pourquoi ?
Parce que je lui demande tout le temps de resserrer la vis et de resserrer les taux. Oh, il est taquin avec moi. Hein. Parfois, il me surnomme aussi Raoul Volfoni.
Je comprends pas.
Je crois que je vois Raoul
Volfoni. C'est celui qui se prend toujours des claques dans les tontons flingueurs. Mais ça ne m'embête pas d'être une tête à claque. L'essentiel pour moi est de freiner le virus.
Et outre les reconfinements locaux, comment l'arrêter alors ?
Plus que jamais en respectant les gestes barrières. On ne le dira jamais assez. Regardez les Daft Punk. Ça fait 30 ans qu'ils portent le casque et ils décident de l'enlever en pleine pandémie. C'est irresponsable. Si ça ne tenait qu'à moi, je leur ferais un pampan cucu. Mais le président est trop gentil.
Et Jean Castex, il en pense quoi ?
Oui.
On l'entend plus trop, là.
C'est normal. Suite au succès de la vidéo de McFly et Carlito, il a décidé lui aussi de challenger des youtubeurs pour rajeunir son image.
Oui.
Il passe donc ses journées sur Minitel à chercher des vidéos des frères Jacques sur 3615 YouTube. En vain. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous voulez ? Le virus progresse.
À peine posée sur la planète Mars, la sonde Persévérance a débuté ses travaux à la recherche de possibles traces de vie. Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour.
Bonjour. Vous suivez cette mission ?
Bien sûr, qu'en tant qu'astrophysicien spécialiste du cosmos interplanétaire, je me tiens au courant de tout ce que fait la sonde Persévérance sur le sol martien. Mm-hmm. Comment qu'elle se dépatouille, comment qu'elle gratouille, comment qu'elle farfouille partout sur la planète rouge. Puis aussi, après, bien sûr, j'écoute tout ce qu'elle gargouille en direction de la Terre.
Et alors, mais qu'est-ce qu'elle nous gargouille, Persévérance ?
Pour l'instant, elle nous a surtout dit qu'elle avait trouvé des cailloux, puis aussi la météo pas terrible, et puis qu'il y a du vent et qu'elle avait les plein de poussière.
La fameuse poussière rouge, c'est vraiment fascinant.
En tant que scientifique impartial objectif, je suis obligé de vous dire que ça n'a aucun intérêt d'aller remuer de la poussière au fin fond du cosmos à des milliers et des millions de kilomètres de chez nous.
Je pensais que c'était afin de préparer une future mission habitée.
Si l'être humain veut un jour coloniser la planète rouge, faut lui souhaiter ben du courage parce que là-haut, c'est un milieu hostile.
Ah, oui.
C'est aussi respirable qu'un vestiaire de football ou qu'un scaphandre d'astronaute après 8 heures de sortie extravéhiculaire.
Ah oui, c'est vraiment hostile alors. Hein oui.
Et surtout, on ne peut pas s'asseoir sur un banc comme un malicorne pour y jouer de la flûte en regardant tomber les météorites au clair de lune. Avec les vents martiens, on risque de se faire emporter. Après, une fois qu'on est perdu, il faut se faire à manger tout seul comme Brad Pitt dans Seul sur Mars.
Alors justement, vous pensez qu'il sera possible un jour, comme nous le prédit, de rendre fertile le sol martien, comme dans ce film, Seul sur Mars ?
Pour sûr que ce sera possible, mais comme il n'y aura ni poule, ni vache, ni cochon, on mangera aussi mal que dans les cantines scolaires de Lyon.
Après 3 décennies de tubes internationaux, les Français de Daft Punk ont annoncé la fin de leur duo. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, qui apparaissent toujours casqués, se sont séparés. Ah, bonjour François Hollande. Ben oui.
Mais je comprends pas.
Il est là, lui.
Vous m'avez reconnu ?
C'est pas parce que vous portez un casque que je vous reconnais pas, hein. Oui.
Mais j'en ai marre, je vous le dis, d'entendre parler depuis une semaine de Daft Punk.
Ah.
Comme quoi, ce seraient les deux Français casqués les plus célèbres du monde.
Oui.
Mais non ! C'est moi le Français casqué le plus connu de la planète. Mm-hmm. Je suis la star du scooter. Mes tours en Vespa, rue du Cirque, ont fait ma légende, je le dis.
Oui, enfin, vous n'avez pas vendu plusieurs dizaines de millions d'albums à travers le monde.
Non, c'est vrai. Mais avec mon casque, j'ai servi plusieurs dizaines de croissants et pains au chocolat à ma Juju.
Oui.
Il faut dire qu'à l'époque, on commençait tout juste à flirter. Alors, autant vous dire que j'étais souvent sur la béquille.
Oui, oui, bon, on a bien compris. Toujours est-il que ça n'a rien à voir avec l'arrêt de Daft Punk qui attriste des millions de fans.
Il commence à me gonfler, hein, les Daft Punk. J'ai pas besoin qu'on me gonfle pour ressembler au Bimadom Michelin. Moi, quand j'ai arrêté ma carrière, personne n'a réclamé mon retour. Il y a même eu des scènes de liesse, c'est méchant.
Oui, mais les Daft Punk sont les créateurs de la French Touch, qui a inspiré des dizaines d'artistes.
La French Touch, et moi alors ? Tout rater pendant 5 ans et partir la queue entre les jambes, c'est pas de la French Touch, ça, peut-être ? D'ailleurs, moi aussi, j'ai inspiré les plus jeunes. Le petit Macron, par exemple, il marche sur mes traces. Ah. Alors je lui dis, Manu, enfile un casque et tous les deux, on remonte sur scène. Allez, musique du girafe. On rentre à l'Elysée. On va bien se planter. One more time. One more time à l'Elysée. Je l'ai dit.
Ah bah c'est sûr, vous l'avez dit.
Une actualité riche.
Alors, bah cette actualité riche, vous la retrouvez sur le site rtl.fr. Et puis nous nous fixons rendez-vous demain matin, si vous le voulez bien.
Qu'est-ce qu'il fait à manger, Cyril Lignac, ça m'intéresse.
Ah bah, oui.
Ah bah ça, vous allez adorer.
Je suis gourmand, vous le savez. Ça ne se voit pas, mais je suis gourmand.
Des chouquettes.
Oh, des choux, mais c'est pour Sarkozy, c'est pas pour moi.
Normalement, c'est pour Nicolas Sarkozy.
Oui,
vu les circonstances, on a pensé qu'il fallait
lui. On va le donner au président.
Oui, voilà, exactement.
Il pourra m'en amener en prison, c'est sympa.
À demain matin.
À demain.
Merci
à
toute l'équipe. Dans un instant, Cyril, vous nous donnez donc cette recette de chouquettes moelleuses.
Et aérienne.
Oui, comme moi, aérien.
Voilà. À tout de suite, monsieur le président.
RTL Matin.
Yves Calvi jusqu'à 9h30. RTL Matin, Yves Calvi.
Nos chouquettes sont très appréciées, vous le savez, notamment au parquet national financier. Alors, c'est Alice qui a l'origine à Menton, où généralement on s'intéresse aux brioches, qui aimerait que vous l'aidiez à réaliser des chouquettes moelleuses et aériennes. Et évidemment, comme d'habitude, vous êtes engagé à le faire.
Alors, le secret, premier, c'est de mélanger de l'eau avec du lait dans la pâte à choux. Traditionnellement, on fait toujours une pâte à choux avec de l'eau, du beurre, du sel, et ensuite on ajoute la farine.
Oui.
Là, moi, je fais 12,5 centilitres d'eau et je mets autant de lait. Je coupe 125 grammes de beurre, une pincée de sel. On fait bouillir tout doucement à frémissement, pour que le beurre fonde. Une fois que le beurre, le lait et l'eau font qu'un, hors du feu, ça c'est très important, on sort la casserole du feu et on ajoute d'un coup d'un seul 150 grammes de farine.
Paf.
On remue, l'amidon fait effet, exactement, et ensuite on remet sur le feu et là on dessèche. Si déjà on réussit ça, on a réussi la pâte à choux.
D'accord.
Parce que à partir du moment où on a une pâte qui est sèche,
feu doux, non ?
Feu doux. Ouais. Et ensuite on mélange bien et on a cette pâte très élastique. On la sort dans un petit batteur ou si on n'a pas de batteur à main dans une petite un petit saladier.
Parfait.
Et ensuite on ajoute les œufs. Alors, ce qui est important, c'est de régler les œufs en fonction du dessèchement de la pâte. Donc en moyenne, c'est 4 œufs.
Ouais.
Donc un après l'autre, on mélange bien. Et là, ensuite, on les remue et la pâte devient un ruban.
Mmh.
On le met dans une poche à douille, on prend une plaque, on fait nos petits choux, on dépose un petit peu de gros sucre dessus. Ah, bien sûr, avant, on les dore, un petit peu de gros sucre dessus et on cuit au four à 165 degrés pendant 40 minutes et on n'ouvre pas la porte du four.
Très bien.
Voilà.
La recette est sur le site rtl.fr et une fois de plus, vous avez tenu votre engagement.
Et là, elle est moelleuse.
Merci mille fois, Cyril Lignac. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Jérôme Florin.
Depuis ce matin, il faut présenter un test négatif pour se rendre en Allemagne. Depuis la Moselle, 20 000 Français travaillent outre-Rhin. Ils ont parfois du mal à comprendre.
Pourquoi les Allemands ils sont le droit de passer et nous, on ne peut pas aller travailler. Quoi. Je commence à 6 heures à travailler, être ici et faire 4 heures de queue. C'est incompréhensible. Comment on peut faire ? On doit perdre un jour de travail pour faire 2 jours de travail. On perd un jour pour faire un test et on revient. C'est n'importe quoi.
Un propos recueilli par Dimitri Ramelot. Coup d'accélérateur sur les vaccins. Celui d'AstraZeneca pourra être proposé aux 65-75 ans avec comorbidité, soit 2,5 millions de Français en plus. Nicolas Sarkozy fait appel de sa peine de 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Le chef du parquet national financier qui avait requis sa condamnation, Jean-François Bonnaire, était l'invité de RTL.
Je lui ai dit, les yeux dans les yeux, que mon parquet, le parquet que j'ai l'honneur de représenter et de diriger, n'entendait pas mener une fronde contre lui et qu'on n'était pas dans une situation de vengeance. Mais comprenez bien, si des infractions sont constituées. C'était la thèse du parquet, c'est aujourd'hui la thèse du tribunal. Eh bien, nous ne pouvions pas faire autrement que de poursuivre et de requérir la condamnation. C'est ce que je fais pour chaque citoyen. Lorsqu'il y a quelques années, au tribunal de Strasbourg, lorsque je requérais contre des voleurs à la roulotte, je le faisais exactement de la même manière, de façon proportionnée aux faits commis.
Et puis, ils viennent d'arriver à Tokyo. Les deux Américains accusés d'avoir aidé Carlos Ghosn dans sa fuite du Japon étaient visés par un mandat d'arrêt. Il s'agit d'un ancien membre des forces spéciales américaines et de son fils. Jérôme Florin.